7h, 9h.
Bonjour à tous.
Nicolas Saliagas sur Europe 1.
Rebonjour, nous sommes le vendredi 15 février à la une de l'actualité. Gilets jaunes, stop ou encore, qu'en pensez-vous? On va en parler dans le journal de 8h longuement. Notamment, on reviendra sur Christophe Chalençon. Nous l'avions reçu début décembre. C'est lui qui voulait un militaire à la tête du pays. Il en a remis une couche, on vous dit tout. Et puis face à l'urgence climatique, les jeunes se mobilisent. Reportage dans le journal de 7h dans quelques instants avec Hélène Zélani. À 7h45, je vais recevoir un samouraï des temps modernes, Patrice Franceschi, écrivain, aventurier, cinéaste, il est marin, pilote, bref, il est passionnant. Et on parlera notamment de l'actualité et de la Syrie qu'il connaît bien, puisqu'il est allé combattre aux côtés des Kurdes. Et puis cette question, de bonnes cantines scolaires, est-ce que ça existe? Réponse à 7h20 dans Europe 1 va plus loin. Voilà pour le programme, très heureux d'être à vos côtés jusqu'à 9h. Bon réveil à tous.
Et bienvenue en ce vendredi 15 février sur Europe 1. Il est 7h, très bon réveil. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nico Saliagas.
Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
Bien réveillé.
Très bien.
À la une de l'actualité ce matin.
L'entretien d'embauche virtuelle testé dans une agence Pôle emploi d'Angers, il pourrait bien être étendu à toute la France. François Coulon a pu assister à l'expérience en exclusivité pour Europe 1. L'aide-soignant d'un EHPAD d'Arcueil dans le Val-de-Marne doit être jugé en comparution immédiate aujourd'hui. Il a fini par reconnaître les violences sur une pensionnaire de 98 ans. Et puis on arrive au pic de la grippe. Consultation en hausse de 15% la semaine dernière. 1800 morts. Conseil pour l'éviter. Et puis comment être sûr que c'est bien la grippe ? On en voit ça à la fin du journal.
Europe 1.
Et si pour aider les chômeurs, on les plaçait en condition d'entretien d'embauche grâce à la réalité virtuelle. Cette idée, elle est testée en ce moment dans les pays de la Loire. Et si ça fonctionne, pourrait bien être généralisée. Nous sommes les seuls à avoir pu accéder à l'expérimentation dans une agence Pôle emploi d'Angers avec des chômeurs qui ont testé le dispositif. C'est un reportage signé François Coulon.
Un casque de réalité virtuelle sur la tête de 8 candidats à l'embauche. Chacun choisit un avatar, remplit un CV et sélectionne une offre d'emploi avant de répondre aux questions d'une DRH fictive.
Vous avez tendance à entrer en conflit avec les autres ?
Non, je déteste les rapports de force.
Et le commercial idéal, vous le définiriez comment ?
Le commercial idéal ? C'est moi. Moi, je suis prêt à tout vendre.
L'objectif est de récolter un maximum de points en choisissant les réponses les plus pertinentes. 20 minutes d'entretien avant le verdict d'un coach virtuel.
Vous n'avez pas réussi à mettre en avant vos compétences.
Vous ne devez pas perdre de vue que vous devez vous vendre.
À la sortie, séquence évaluation, avis mitigé des demandeurs d'emploi.
Ce qu'il y a d'intéressant, c'est le feedback rapide de l'exercice. De suite, on a la réponse. Est-ce qu'on a bien répondu ou est-ce qu'on s'est planté? C'est très important pour s'améliorer, se remettre en question assez rapidement.
Ça ne m'a pas aidé parce que je veux un entretien pour de vrai en fonction de moi, mes difficultés personnelles, mon profil. C'est ça, ce dont j'ai besoin. C'est pas d'un robot dont j'ai besoin, c'est de vrais gens.
3 mois de tests dans les Pays de la Loire avant une éventuelle extension à l'ensemble du territoire. Angers, François Coulon, Europe.
Et on rappelle qu'on a appris hier que le taux de chômage était de 8,8% de la population active. Première fois depuis 10 ans qu'il passe en dessous des 9%. À propos des négociations sur l'assurance chômage, elles sont plutôt mal engagées. Nouvelle réunion tendue hier et ultimatum des syndicats au patronat. Il faut un projet d'accord avec le fameux bonus malus sur les contrats courts d'ici mardi. Sinon, ils ne viendront pas à l'ultime réunion le lendemain.
Nous vous parlions hier de cette terrible affaire de violence dans un EHPAD du Val-de-Marne. Eh bien, l'aide-soignant incriminé va devoir s'expliquer devant la justice.
Oui, il devrait en effet être jugé en comparution immédiate à Créteil pour avoir violenté une dame de 98 ans. La famille qui avait placé une caméra dans sa chambre a découvert avec horreur les coups, les insultes. L'aide-soignant, qui était encore hier en garde à vue, a évolué dans ses déclarations face aux enquêteurs Pierre Herbulot.
Dans un premier temps, l'aide-soignant nie tout en bloc. Non, il n'a pas giflé cette dame. Il ne lui a pas demandé de fermer sa gueule quand elle appelait à l'aide. Il n'a pas non plus tiré par les cheveux la nonagénaire pour la relever alors qu'elle venait de se briser le fémur en tombant. Sauf que, selon nos informations, à ce moment-là, les enquêteurs ne lui ont toujours pas dit qu'ils avaient des vidéos de toutes ces scènes. Alors, l'homme de 57 ans poursuit sur la même ligne. Il se décrit comme un employé modèle, lui qui travaille dans la maison du Grand Cèdre depuis sa création il y a 9 ans. « Ma direction a toujours pu compter sur moi », ajoute-t-il. Les policiers passent alors à la vitesse supérieure. Ils lui montrent les images où l'on distingue sans le moindre doute un coup de pied, une claque, où l'on entend des insultes. L'aide-soignant reste sans voix. Désormais, difficile de nier et de convaincre les enquêteurs.
Pierre Herbulot. Europe 1, 7h04.
Septième étape du grand débat dans l'Indre hier pour Emmanuel Macron.
Le chef de l'État a d'abord écouté les doléances des maires sur les difficultés du monde rural. Et puis dans la soirée, il a rencontré une cinquantaine de patrons hors caméra, réunion à laquelle assistait Jean-Rémy Baudeau.
Pour renouveler l'exercice, l'Élysée avait convié des patrons dans un hangar, au milieu d'avions, d'hélicoptères, une atmosphère très business, et des chefs d'entreprise ravis que le président vienne jusqu'à eux.
C'était intéressant qu'il puisse venir déjà dans une zone hyper rurale. Il nous a dit des choses intéressantes. Il y a de toute façon des progrès depuis qu'il est en place. On aimerait que ça aille encore plus vite, que ça aille encore plus loin. Il faut du temps pour tout ça.
Pas de vague pour les patrons de l'Indre, fiscalité, difficulté à embaucher. Les thèmes étaient relativement classiques.
Ces textes de loi vont très vite, les décrets ne sont pas toujours appliqués. Le chef d'entreprise est un peu perdu dans le méandre administratif, car son métier, c'est avant tout de produire.
Pour tous, à l'issue du débat, néanmoins, une aspiration que ces échanges apportent réellement quelque chose.
Moi, j'ai un préfet qui m'a dit un jour, « Monsieur Guignard, vous inquiétez pas, on va vous aider. » Bon, ben, j'attends.
Châteauroux, Jean-Rémy Baudeau, Europe 1.
Et au même moment, le Premier ministre Édouard Philippe était dans le Finistère pour une réunion également consacrée aux questions rurales. Le gilet jaune Christophe Chalençon affirme que des paramilitaires sont prêts à faire tomber Emmanuel Macron et le gouvernement. Propos filmés en caméra cachée par la télé italienne. Christophe Chalençon était interrogé notamment sur sa rencontre qui a fait beaucoup de bruit avec le vice-premier ministre italien Di Maio. Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, se demande sur Twitter s'il s'agit d'une comédie italienne ou juste d'un nouveau délire personnel. Et puis on connaît le nom du successeur d'Alain Juppé à Bordeaux, ce sera Nicolas Florian, 50 ans, jusqu'ici adjoint aux finances de la mairie. Il a été désigné à l'unanimité par les élus de la majorité municipale hier soir. Quant à Virginie Calmels, première adjointe d'Alain Juppé, elle va quitter la mairie et retourner dans le secteur privé.
Europe 1.
Dans une demi-heure, on viendra justement sur ce qui s'est passé à Bordeaux et sur Alain Juppé avec Jean-Michel Apathy. Et puis, dans un instant, les jeunes Français veulent eux aussi s'impliquer dans la lutte contre le réchauffement climatique. On vous dit tout juste après ça dans le journal d'Hélène Zélani.
Il est 7h07, votre matinale info, Nikos Aliagas.
Bon réveil à tous, le journal avec Hélène Zélani. Ils sont lycéens, étudiants et pour eux, le climat, c'est une affaire très sérieuse, c'est même une priorité.
Ouais, le mouvement existe déjà à l'échelon européen. Il arrive en France, à Paris et dans une quarantaine de villes. Des collectifs préparent la grève internationale du 15 mars. En attendant, un rassemblement est prévu cet après-midi devant le ministère de la Transition écologique. Ce mouvement encore timide est en train de se structurer lors d'Autriche.
Aux quatre coins du monde, en Belgique, en Suisse, en Australie, des jeunes font la grève de l'école le vendredi pour demander à leurs dirigeants d'agir pour le climat. Cet après-midi, devant le ministère de l'écologie à Paris, Félix Rag, étudiant en urbanisme, lira un manifeste en forme d'ultimatum.
L'État français, il permet aux émissions de gaz à effet de serre de la France d'augmenter, alors que l'objectif depuis la COP21, c'était de les faire diminuer chaque année. Il faut prendre des engagements clairs et dès maintenant.
Le modèle de ces jeunes, c'est Greta, une adolescente suédoise autiste Asperger, devenue une icône de la lutte contre le réchauffement climatique. Tous les vendredis depuis 6 mois, elle manifeste devant le Parlement de son pays. Aujourd'hui, en France, Pimprenelle Pouillot, étudiante de 19 ans, veut aller parler du climat dans les lycées pour que la mobilisation prenne forme.
La jeunesse, si on prend les moins de 25 ans, on est tous nés après 1995. On parle d'un combat qui est un peu le combat de notre vie, quoi. C'est toute notre vie, on va entendre parler de ça et toute notre vie, on va devoir se battre pour ça. Parce que d'ici 2050, la plupart des décideurs ne seront plus en poste.
Leur espoir, c'est de réussir à mettre en grève des centaines de lycéens le 15 mars prochain.
Lors d'Autriche, Donald Trump veut coûte que coûte construire son mur à la frontière avec le Mexique pour le financer. Le président américain va déclarer l'urgence nationale, une procédure exceptionnelle. La grippe n'en finit plus de gagner du terrain. Déjà 1800 morts cet hiver, des consultations en hausse de 15% la semaine dernière et un vaccin malheureusement moyennement efficace, d'où l'importance de se protéger. Mais si la grippe nous tombe dessus, que faut-il faire, Mélanie Gomez ?
D'abord, il faut être sûr qu'on a vraiment la grippe. Et pour ça, il y a quelques signes qui ne trompent pas la grippe. Elle débarque de façon brutale, avec une fièvre qui monte très vite à au moins 39. Souvent, il y a aussi une gêne respiratoire, parce qu'en fait, la grippe, c'est un virus qui ne touche pas le nez, mais plutôt les poumons. Et enfin, dans la majorité des cas, la grippe, ça va avec les courbatures caractéristiques, celles qui vous clouent au lit. Face à ces symptômes, pas d'hésitation, il faut consulter un médecin. Et ça, c'est valable même si vous êtes en bonne santé. Et pour le traitement, ça sera juste du paracétamol dans la plupart des cas, sauf pour les plus fragiles, les cardiaques par exemple, ou si vous avez un bébé à la maison. Là, explique Jean-Paul Stahl, infectiologue au CHU de Grenoble, un antiviral, le Tamiflu peut être utile.
Ça diminue quand même, dans une certaine mesure, l'intensité des symptômes et la durée des symptômes. Et puis surtout, c'est le bénéfice le plus démontré, c'est de réduire la contagion autour de l'individu traité.
Alors la grippe, il faut savoir que ça dure en moyenne 8 jours. Au-delà, effectivement, si ça ne va pas mieux ou si les symptômes, surtout respiratoires, s'aggravent, surtout reconsulter. Enfin, pas d'inquiétude si pendant encore quelques semaines, ce n'est pas la grande forme. Après une grippe, c'est normal. L'état de fatigue peut durer encore un mois.
Voilà la consultation de Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe
1. Merci docteur.
Et puis un mot de foot. Hier soir, Rennes a concédé le nul à domicile face au Betis Séville. 16e de finale aller de la Ligue Europa. 3 buts partout. Match retour jeudi.
Vos infos sont toujours nuancées et mesurées. Votre voix nous fait du bien. C'était Hélène Zélani. Passez un excellent week-end.
Vous aussi.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
Il est 7h11, c'est l'heure de retrouver Martin Fenot sur le terrain, comme chaque jour, Nikos.
Alors vous êtes où ce matin, Martin? On m'a dit que vous étiez pas loin d'une cage.
Exactement, je suis en fait devant la salle d'entraînement d'un des athlètes français les plus connu au monde, c'est à Paris. L'athlète s'appelle Francis Ngannou, colosse d'1m95, 117 kilos, numéro 4 mondial dans sa discipline. Il combat ce week-end aux États-Unis.
Ah, je rigole pas,
combat de MMA, un sport interdit en France. Alors je vous emmène tout de suite dans l'arène, dans la cage. Alors le MMA, c'est quoi? C'est un mélange de boxe, de lutte, de jiu-jitsu brésilien, c'est violent. Et ça rencontre un succès fou dans le monde entier. Francis Ngannou, comme nous le raconte son coach, quand il se déplace à l'étranger, il est assailli par les fans.
Il est impossible de se déplacer à Vegas sans être stoppé parce qu'il est demandé en photo. Hein. C'est beaucoup plus exponentiel du côté des États-Unis, du côté du Japon, du côté de l'Asie, du côté de la Chine. Beaucoup plus qu'en France, ce qui est effectivement dommage.
Alors c'est un sport tabou en France, non, je crois. Il est interdit, mais pour quelle raison, Martin Fenot?
Alors les combats ont lieu dans une cage et les coups sont autorisés quand l'adversaire est au sol. Pour l'État français, tout ça représente une atteinte à la dignité humaine du coup. Alors la compétition est interdite, mais pas l'entraînement. Et la discipline attire des sportifs de haut niveau comme Rizlen Zouak, qui est ancienne judokate. Elle a participé aux derniers Jeux Olympiques.
J'aurais pu continuer en vrai le judo, aller jusqu'à Tokyo 2020, mais j'avais envie de nouveaux challenges. Et le MMA, ça me convient parfaitement. Les combattants de MMA, ils ont autant de mérite qu'un sportif qui est dans un sport olympique. Ils s'entraînent autant, ils font des sacrifices. Quand j'étais au judo, j'avais des bourses, j'étais aidée. Que là, au MMA, c'est clair que c'est plus dur, j'ai rien de tout ça.
Voilà, pas d'aide financière. Les athlètes cumulent leur travail et l'entraînement 2 à 3 fois par jour. Écoutez, Alan, il est très connu au Japon, mais quand il rentre en France, c'est plus compliqué.
J'ai 2 enfants, je travaille aussi à côté, dans un laboratoire alimentaire. Je sors du travail, je viens m'entraîner et ça fait 6 ans que je pousse. Tant que je ne serai pas arrivé à mon objectif, je ne lâcherai pas en fait.
Ouais, c'est une double vie en fait. C'est-à-dire qu'anonyme ici et star au Japon. L'objectif, c'est certainement de vivre un jour de leur sport. C'est un sport qui se développe. On peut aller plus loin en France?
Oui, il y aurait 70 000 pratiquants aujourd'hui en France. Il y a de plus en plus d'écoles avec des cours adaptés pour les enfants. Des jeunes qui ont en tête évidemment le parcours de la star française Francis Ngannou. Il y a 5 ans, cet homme vivait dans la rue. Il était SDF. Grâce au MMA, il gagne aujourd'hui plusieurs centaines de milliers de dollars par combat.
Et c'est un sport qui reste très très dangereux, il faut bien le dire. Même si effectivement Francis Ngannou, lui, est un dieu vivant dans sa discipline. Vous faites des arts martiaux, Martin Fenot?
Du jiu-jitsu brésilien, oui.
C'est pour ça que vous êtes baladé avec un œil au beurre noir la dernière fois dans la rédac. C'est ça en fait, vous prenez cher. Il ne faut pas vous embêter. Merci pour cette rencontre avec des champions de MMA connus dans le monde entier mais dont le sport est interdit en France. C'était passionnant.
Nico Saliagas sur Europe 1.
À suivre l'édito écho avec Nicolas Barré. Vous faites des arts martiaux?
Ah non, pas du tout.
Du MMA?
Attention à ce que vous allez répondre, il y a Quantelou qui écoute. Hein. Vous allez nous parler ce matin du pas si nouveau patron d'EDF.
Et oui, voilà, il vient d'être prolongé par l'État et ses défis sont absolument immenses.
7h20, on va en parler avec effectivement la rédaction d'Europe 1. Vous vous souvenez de la petite Lily qui avait mobilisé son école pour protester contre la cantine d'Europe 1? Elle faisait une manif dans la cour. Eh bien, on a enquêté. Y a-t-il en France de bonnes cantines scolaires? Et si oui, lesquelles? Et quel est le secret? La réponse dans un instant dans Europe 1 va plus loin.
Reste avec nous sur Europe 1, il est 7h14. Il est 7h15, les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Nico Saliagas.
Un gilet jaune au tribunal, Éric Drouet est accusé d'avoir organisé 2 manifestations sans déclaration préalable. Arrêté début janvier près des Champs-Élysées, il avait dénoncé une interpellation politique. L'aide-soignant d'un EHPAD du Val-de-Marne doit être jugé en comparution immédiate aujourd'hui, soupçonné de violence sur une femme de 98 ans. Il a fini par reconnaître les faits lorsqu'il a été confronté aux images. C'est Nicolas Florian, 50 ans, qui a été choisi pour remplacer Alain Juppé à la mairie de Bordeaux. Il était jusqu'ici adjoint aux finances. Et puis aux États-Unis, Donald Trump va déclarer l'urgence nationale et ce, pour pouvoir construire son mur à la frontière avec le Mexique. Une procédure exceptionnelle qui l'autorise à contourner le Congrès américain.
Europe 1.
Il est 7h16, l'heure de retrouver Nicolas Barret pour l'édito Éco Nikos.
Alors Nicolas Barret, c'est le directeur de la rédaction du journal Les Échos. Et le gouvernement, j'aime bien le rappeler tous les matins, je ne sais, ça vous fait sourire. Mais c'est vrai, vous êtes le patron des Échos, donc vous savez de quoi vous parlez. Et le gouvernement a renouvelé le mandat de Jean-Bernard Lévy à la tête d'EDF. Ça veut dire quoi? Que ces défis sont gigantesques, car l'avenir de ce groupe public est aussi incertain?
Oui, tout à fait. Il y a un côté État dans l'État chez EDF. C'est un empire qui produit 85% de l'électricité française et qui gère le plus grand parc nucléaire du monde. Et pourtant, cet empire qui s'est longtemps cru absolument insubmersible est fragilisé. EDF a dû racheter la moitié d'Areva pour sauver la filière nucléaire française. C'était pas évident. Et puis, la concurrence est à ses portes. EDF perd jusqu'à 100 000 clients par mois au profit de ses concurrents comme Total, et d'autres sources d'énergie de plus en plus rentables viennent contester également la suprématie du nucléaire.
En fait, avec ce nouveau mandat, Nicolas Barret, l'État donne du temps à EDF justement pour amorcer les changements,
et
c'est ça?
Oui, et c'est une excellente chose. Pour une fois, l'État actionnaire prend une bonne décision. Vous savez, dans l'énergie, on a besoin de long terme. Quand EDF a construit son parc nucléaire dans les années 70-80, il y a un patron historique qui s'appelle Marcel Boiteux qui est resté pendant 20 ans, et c'est ça qui a permis à EDF de construire le parc. Depuis, aucun patron d'EDF n'a jamais fait un deuxième mandat, ce qui est absurde dans cette industrie. On est aujourd'hui à nouveau à un moment historique. C'est pour ça que Jean-Bernard Lévy a besoin de temps. EDF, d'abord, doit prouver que le nucléaire de nouvelle génération, c'est-à-dire l'EPR, est une technologie rentable. Son immense défi, ça va être d'en faire la démonstration pour les politiques qui prendront la décision en 2022 à la prochaine présidentielle. Et puis d'ici là, donc, il faut que Flamanville, l'EPR de Flamanville, fonctionne et soit un succès économique.
Mais il faut des sous, et c'est pour ça que le défi est aussi financier, j'imagine.
Alors voilà, EDF en plus est endetté, 34 milliards d'euros, mais il doit beaucoup investir dans les années qui viennent, ce qui va alourdir encore la dette. Il doit investir dans le parc nucléaire avec des réacteurs dont la durée de vie est prolongée jusqu'à 50 ans. Et puis, il doit investir dans les énergies renouvelables dont la part doit augmenter en France. Et pour ça, il faudra aussi sans doute réorganiser le groupe, créer deux entités à l'intérieur d'un groupe unique avec le nucléaire d'un côté et le reste de l'autre. Les défis, vous voyez, sont immenses. Mais au fond, un patron d'EDF, ça engage la France pour une génération.
Nicolas Barret, l'édito Écho tous les jours pour bien se réveiller et apprendre des choses.
Europe 1, Nikos Aliagas.
Il est 7h18, place à l'enquête de la rédaction. Europe 1 va plus loin, s'intéresse ce matin à la qualité des cantines scolaires françaises, Nikos.
Et ce midi, Céline, les parents d'élèves du 18e arrondissement de Paris ont décidé de ne pas faire manger leurs enfants à la cantine. Et ce n'est pas un phénomène isolé. Souvenez-vous, la semaine dernière, Lily et Loïs, 10 ans, avaient carrément organisé une manifestation symbolique, voilà, une manifestation d'enfants contre leur cantine. Ça s'était passé à Vanves. Écoutez.
Trop de sauce marron, repas pas bon. Même les pâtes au beurre, c'est bien meilleur. On en avait un autre aussi. Mon estomac n'est pas d'une poubelle. On en a marre des trucs industriels.
Est-ce que ça existe, les bonnes cantines? C'est une question qu'on se pose ce matin. Bonjour Virginie Salmen.
Bonjour.
Spécialiste éducation d'Europe 1. Vous en avez trouvé une apparemment.
Eh oui, eh bien c'était vraiment bon d'ailleurs. À l'école Buisson de Bègle, près de Bordeaux. Alors c'est pas un tout petit village, c'est une ville de 30 000 habitants. Mm-hmm. J'ai eu un peu peur au départ, je vous avoue, en voyant
Pourquoi
le menu, parce qu'hier c'était poisson et brocoli. Je me suis dit, les élèves vont jamais trouver ça bon. Il y avait quand même en dessert un brownie au chocolat. Eh bien je me suis trompée, écoutez-les.
Le brocoli, c'est mon plat préféré.
Ah bon?
Parce que j'aime bien le goût. Ce qui est plus bon dans ce plat, c'est le poisson, les brocolis et le chocolat. Et
en général, les enfants, ils n'aiment pas trop le poisson?
Ben moi, j'aime bien le poisson. Le goût, il est naturel et je veux dire, il est trop bon.
La sauce, elle est très belle et aussi, c'est du beau filet de poisson.
Comment tu vois que c'est du beau filet de poisson?
Ça se voit à l'œil.
Moi, je préfère la cuisine de la cantine que la cuisine de chez moi, à part les gâteaux de mon papa.
Ils sont forts, hein?
Très.
Alors, je vais vous expliquer
ça
le miracle.
Ça se voit à l'œil.
Ça se voit à l'œil, ouais. Ils sont très, très forts pour le marché. Je vais vous expliquer le miracle de cette cantine. Alors, je vous plante le décor. À Bègle, il y a une cuisine pour toutes les écoles de la ville qui prépare les plats chaque matin pour 2500 élèves et qui les livre encore chauds dans les écoles de la ville. Alors, il n'y a pas de prestataire. Quand on entre dans cette cuisine, on trouve des vrais cageots en bois avec dedans de la mâche encore pleine de terre, 5 personnes qui la nettoient. Bref, on achète des légumes frais, tout juste sortis de terre et on les cuisine vraiment. Voilà la fameuse recette des brocolis par Stéphane Trébern, le second de cuisine.
Quand ils vont manger, il y aura ces œufs, la crème, comme un flan. Et là, c'est pareil, ça leur apporte en bouche quelque chose qui va leur rappeler un effet peut-être gâteau ou quoi. Et ça, voilà, c'est sur ça qu'on joue.
Voilà, vous avez compris, hein, les brocolis, pas vapeur, mais avec un flan, avec de l'œuf et du fromage, et ça, ça change tout.
Pas de conservateur, mais on imagine que ça coûte plus cher, non?
Alors, ce n'est pas plus cher. À Bègles, j'ai vu dans les cantines du comté AOP, de la semoule bio, du poisson frais. Et pourtant, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le repas revient à la mairie à 2 euros. En comptant le pain bio semi-complet, le tarif moyen en France, c'est entre 1,50 euro et 2 euros le repas à la cantine. Donc, on est dans les clous. Mmh. Mais évidemment, les enfants ne mangent pas tous les jours de la viande bio de race charolaise, ni même d'ailleurs de la viande tout court. Ça, c'est le travail de Nicolas Madet, le directeur de la cuisine.
Sur un menu, typiquement, on peut retrouver un jour, on va avoir une omelette, un jour, on va manger alternatif, donc un plat végétarien, et puis un jour, on va manger du poisson. Et finalement, dans la semaine, vous n'aurez mangé que deux fois de la viande. L'économie générée, on la réinjecte dans des produits de qualité supérieure. Elle est là, la clé.
Alors, évidemment, c'est moins compliqué et pas forcément moins cher de confier ses cantines à un prestataire de service, ce qui est le cas de 45% des cantines en France. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les autres sont toutes des cantines de bonne qualité.
Est-ce que vous savez, Virginie, combien de communes ont de bonnes cantines en France ?
Alors, très très peu. C'est moins de 2% des cantines françaises, selon les chiffres de l'Observatoire des cantines bio et durables. Non, voilà, ça c'est vraiment un exemple, un petit oasis. Il y a même 5 villes en France qui font du 100% bio, dont par exemple Grande-Synthe dans le Nord, mais ça c'est très marginal. Parce qu'il faut une forte, très forte volonté politique pour le faire. Une ville qui voudrait construire ses propres cuisines, par exemple, c'est une conversion d'environ 3 ans. Mais il y a, vous savez, de plus en plus de parents qui se mettent en collectif et qui poussent dans ce sens. Si vous voulez que ça change dans la cantine de votre enfant, il existe même un guide disponible sur Internet qui vous donne les clés pour faire pression. C'est sur le site 1plusbio.org, en toutes lettres, 1plusbio. La première action, par exemple, c'est de réserver vous-même un repas pour aller tester la cantine de votre enfant. Vous prenez en photo les plats.
On peut faire ça ?
Oui, on peut faire ça. On a le droit. Vous prenez en photo les plats, vous faites circuler tous les parents d'élèves et puis vous épluchez les menus pour démontrer que les produits ne sont pas bons si vous le pensez.
Moi, je vais le faire tout à l'heure, à midi. Je vais aller dîner dans la cantine des petits. Allez, bonne matinée à tous. C'était passionnant, votre reportage. Virginie Salmen, spécialiste éducation de la rédaction. Une enquête signée Europe 1 va plus loin.
Et vous, est-ce que la cantine de vos enfants est bonne ? Dites-le nous. Appelez-nous par téléphone au 3921 ou sur les réseaux sociaux simplement avec le hashtag Europe 1.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Anissa Mbida, votre innovation concerne-t-elle la cantine des enfants ?
Non, la récréation, parce qu'on va parler de football avec une technologie qui nous fait revivre les phases de jeu en immersion comme si on était sur le terrain.
En regard subjectif, vous voulez dire ?
Exactement.
C'est possible,
à la première personne, comme on dit.
Allez, à tout de suite.
Bon réveil à tous sur Europe 1, il est 7h23. Il est 7h25, EDF, partenaire de la transition énergétique, vous présente l'innovation du jour. Et l'innovation, c'est avec Anissa Mbida, Nikos.
Et ce matin, on va innover dans les retransmissions sportives, dans le football notamment, comme si on pouvait être de la partie, en fait, avec un regard subjectif, c'est-à-dire qu'on peut voir ce que voit en fait le joueur.
C'est génial.
Oui, et c'est assez impressionnant. Hein. C'est comme si on était sur le terrain, au milieu, avec les autres joueurs. On regarde à gauche, il y a Kylian Mbappé qui vient de tirer. À droite, Antoine Griezmann. Bref, on voit vraiment ce que voient les autres joueurs. Et on n'est plus limité au fameux plan large, hein, vous savez, classique, hein, qui est pris derrière les tribunes.
Ça fonctionne en direct ?
Non, pour le moment, ce n'est pas du direct. Mais c'est pour décortiquer plus facilement les actions de jeu. Vous savez qu'aujourd'hui, toutes les retransmissions de télé utilisent des palettes graphiques, des statistiques, des diagrammes pour renforcer les analyses. Et bien là, les consultants vont pouvoir avoir un nouvel outil. Ils mettront un casque de réalité virtuelle sur la tête et ils entreront dans la peau d'un joueur et ils pourront vous montrer de l'intérieur, je ne sais pas moi, un mauvais positionnement, pourquoi le gardien était masqué ou comment un attaquant a su profiter comme ça de l'espace.
Ou d'une faute.
Non seulement ce sera plus clair, mais aussi ce sera beaucoup plus spectaculaire parce que cette fois, on aura le point de vue des joueurs.
Mais comment on va obtenir les images que je comprenne ? On va leur mettre des capteurs, des caméras, des mini-caméras sur le maillot ?
Non. En fait, on les met tout autour du terrain, les caméras, et un ordinateur recompose toutes les actions en 3D.
Ouais.
Voilà. Enfin, il recompose, il recalcule toutes les images en 3D, un peu comme dans un jeu vidéo.
Ouais.
Et du coup, on peut arrêter le temps, on peut accélérer, se positionner n'importe où, positionner la caméra n'importe où. On n'est plus tributaire des images officielles. C'est une technologie qui a été mise au point par les Néerlandais de Beyond Technology. Beyond Sport. Ils viennent de faire leur première retransmission télé sur un match de première ligue anglaise. Maintenant,
ça marche ?
Ils négocient. Oui, ça marche. C'est bluffant. Et ils négocient avec la diffusion avec la Ligue 1. Et donc, ça pourrait arriver très bientôt en France. Il faut le voir.
Ça donne
c'est impressionnant.
Et après, on va l'installer sur europe1.fr pour voir ce qui se passe en régie et dans le studio quand vous présentez votre chronique. Anissa Mbida.
Les petites souris.
Merci C'était beaucoup.
L'innovation du jour avec EDF, bâtiment durable, éclairage intelligent, mobilité électrique avec EDF. Devenons l'énergie qui change tout. Plus d'infos sur edf.fr.
Et on va parler innovation encore ce soir chez Mathieu Béliard entre 17h et 20h. Émission en direct et en public au studio Belmar. On vous attend, venez participer et poser des questions peut-être à Mounir Majoubi, le secrétaire d'État en charge du numérique.
Oui, il reste des places. Hein. Vous pouvez vous inscrire pour assister à l'émission sur la page du Club Europe 1 sur le site europe1.fr. Dans un instant, le journal de Céline Kallmann, mais tout de suite, on retrouve Laurent Cabrol pour la météo.
Lolo Cabrol, ouais. Froid ce matin, soleil tout à l'heure.
C'est top, hein. Franchement, c'est top.
C'est vrai ?
Ah oui, parce que bon, c'est vrai qu'il fait froid, là, d'accord. Mes amis, vous qui nous écoutez à Colmar, à Châteaudun, à Charleville, à Vichy, vous devez dire, bon, il charrie un peu le père Cabrol. Mais non, il fait moins 4 degrés, certes, mais il fera dans la journée quelque chose comme 10, 12, 13, vous voyez, c'est quand même pas mal.
Ouais.
Il fait moins 3 à Montélimar, à Nancy, moins 1 à Lyon, à Marseille, 2 à Lille, 3 à Rennes en ce moment, 4 à Paris, etc. Et dans la journée, des valeurs qui se situeront entre 13 et 20 degrés, donc c'est vraiment sympa. Et
20 surtout, degrés à Clermont-Ferrand, c'est ça ?
Oui. Vous avez bien retenu, tout à l'heure, j'avais dit ça, effectivement, 20 degrés, ça reste la prévision. 16 degrés à Toulouse, à Lyon, Nantes, Paris, entre 14 et 15. Donc c'est vraiment bien. Et puis surtout, je ne vois pas beaucoup de brouillard sur les cartes. Donc ça me réjouit parce que c'est vrai qu'en début de semaine, on a été gâté et même très trop gâté par les brouillards. Alors en ce qui concerne la suite, eh bien aujourd'hui, ce temps, disons, est beau, c'est un beau temps d'hiver. Mm-hmm. Et puis demain, il en sera de même. Ensuite, ça va un peu se gâcher lundi, mardi. Mais je vous en reparle tout à l'heure.
Avec plaisir. Merci Laurent. Le journal avec vous, Céline Kallmann, bonjour.
Bonjour à tous, bonjour Nikos. Premier tour de chauffe aujourd'hui des jeunes Français pour lutter contre le réchauffement climatique. Lycéens et étudiants rejoignent le mouvement lancé un peu partout en Europe il y a quelques mois, mais aussi aux États-Unis. Rendez-vous donc devant le ministère de la Transition écologique à Paris cet après-midi. Félix Rag, étudiant en urbanisme de 22 ans, espère que le gouvernement va s'engager concrètement.
L'objectif de cette mobilisation, c'est d'avoir une diversité de formes d'action, donc de la désobéissance civile jusqu'à le port d'un brassard pour montrer qu'on est en grève et que tout le monde puisse trouver une façon d'agir qui lui corresponde. On nous demande d'aller à l'école, d'aller à l'université pour préparer notre futur, mais on se rend compte que ce futur, y a de plus en plus un voile noir devant, qui est de plus en plus incertain. L'État français, il dit beaucoup de belles choses, mais en fait, il permet aux émissions de gaz à effet de serre de la France d'augmenter, alors que l'objectif depuis la COP21, c'était de les faire diminuer chaque année. Il faut prendre des engagements clairs et maintenant, on est là pour mettre une pression et pour montrer que, en fait, c'est maintenant qu'il faut agir.
Félix Rack, coordinateur du mouvement La Jeunesse pour le Climat avec l'Ordre d'Autriche.
Et après plus de 7 heures d'échange, 2 suspensions de séance, la 9e réunion de négociation sur l'assurance chômage entre les partenaires sociaux a frôlé de très peu l'échec total.
Oui, il ne reste plus qu'un petit espoir, mais pour cela, les syndicats demandent au patronat de s'engager pour lutter contre les contrats courts. Date butoir le 19 février, à la veille de la dernière séance. Marie-Lise Léon, représentante CFDT Éclair, le patron doit choisir son camp.
Ce que le patronat doit comprendre maintenant, c'est qu'il décide, là ils ont les cartes en main, soit ils discutent avec nous d'une forme de modulation des cotisations et on est prêt à regarder l'ensemble des critères, soit ils se font imposer celui du gouvernement. Donc clairement, ils sont au pied du mur et ils doivent décider ça rapidement. Donc on aura le verdict mardi prochain et on verra si le patronat est en capacité de prendre ses responsabilités tout simplement pour lutter contre les contrats courts qui concernent une grande partie des travailleurs en situation précaire.
Un propos recueilli par Olivier Samin pour Europe 1. Hier dans l'Indre, Emmanuel Macron a dû répondre à la colère des mères et leur sentiment d'abandon. Déserts médicaux, manque de maternité, de transport. Le chef de l'État a rencontré des élus dans le cadre du grand débat. Il s'est aussi entretenu avec des chefs d'entreprise, parmi eux Gilbert Guignard, qui salue l'engagement du chef de l'État.
Je pense que le président, il relève les manches, il a fait des petites bêtises, il est en train de les corriger. Nous, ce qu'on veut, un chef d'entreprise comme nous sommes, on ne fait pas toujours que des bonnes choses non plus. Donc il faut savoir se corriger en permanence du 1er janvier au 31 décembre. Et je pense que c'est ce qu'il fait. Il faut que tout le monde prenne conscience, y compris les préfets. Il faut qu'ils se mettent, qu'ils viennent à notre écoute aussi, parce que l'économie, c'est nous. Hein. Les producteurs de richesses, c'est nous. Moi, j'ai un préfet qui m'a dit un jour, Monsieur Guignard, vous inquiétez pas, on va vous aider. Bon, ben j'attends.
Gilbert Guignard avec Jean-Rémy Baudot. Le gilet jaune Éric Drouet comparé aujourd'hui devant la justice pour avoir appelé à un rassemblement non autorisé début janvier, place de la Concorde à Paris, un délit passible de 6 mois de prison. 14 partis politiques lancent un appel contre l'antisémitisme. Ils invitent les Français à se rassembler mardi partout en France. Une enquête est par ailleurs en cours après la découverte hier de plusieurs croix gammées trouvées sur un immeuble en construction à Blois.
Et l'aide-soignant accusé d'avoir frappé, giflé et tiré par les cheveux une pensionnaire d'un EHPAD du Val-de-Marne va comparaître aujourd'hui devant le tribunal de Créteil.
Confronté aux images vidéo, l'homme a fini par avouer. Il dit avoir, je le cite, pété un câble. Hier, les familles des résidents ont été reçues par la directrice. Elle affirme qu'il s'agit d'un cas isolé et condamne évidemment ce comportement très choquant.
Mon équipe et moi-même sommes totalement dévastés et sidérés par ces actes de violence insoutenables. Bien évidemment, toutes nos pensées se tournent vers la résidente et sa famille. La famille avait alerté, maintenant l'état de santé de la dame ne permettait pas forcément de pouvoir mettre en lien d'éventuelles problématiques physiques avec de la violence. Nous sommes sidérés justement parce que aujourd'hui, rien ne nous laissait penser qu'un tel acte et qu'une telle violence pouvait arriver, et encore moins de la part de ce professionnel. Au stade de l'enquête, on est sur un cas isolé.
Eugénie Magnier avec Marguerite Lefebvre.
Un loup, non pas dans la bergerie, mais un loup dans la ville.
Oui, l'animal agressif a été tué hier alors qu'il se trouvait dans les rues de Bormes-les-Mimosas dans le Var. Il avait d'abord été repéré dans un camping fermé en cette saison. C'est Thierry Morlot, responsable de ce site, qui a alerté les autorités.
Belle bête, hein. La grosse tête du loup, la queue vraiment entre les jambes, hein, comme on dit. Je suis descendu de la voiture, bêtement, j'aurais pas dû. Et il s'est senti menacé, quoi. Et là, il commençait à me foncer dessus, quoi. Le dos, les poils, le dos hérissé, les crocs retroussés. Hein. J'ai fait un mouvement, et puis ça l'a effrayé, et il est parti. Il a encore navigué dans le camping pendant au moins 2 heures. On a appelé les autorités, bien sûr, qui sont venus très rapidement, les gendarmes. Il est sorti de la propriété, il était dirigé à côté. Il y a une résidence avec des immeubles et tout ça. Ils l'ont abattu en plein milieu des immeubles, en fait.
Thierry Morlot, joint par Jean-Gabriel Bourgeois pour Europe 1. Début des vacances pour la zone A, deuxième semaine pour la zone B. Attention demain, bison futé, voire rouge en Auvergne, Rhône-Alpes, orange au niveau national pour les départs.
Tennis, on connaît le programme de la Coupe Davis. Nouvelle formule.
Oui, le rendez-vous se déroulera désormais sur une seule semaine. Ce sera en novembre à Madrid sous la forme d'un tournoi, une phase de groupe, une phase finale. C'est là que se sont déroulés hier, donc à Madrid, les tirages au sort. Les Bleus seront face à la Serbie et au Japon. Sébastien Grosjean, nouveau capitaine, n'est pas inquiet, notamment sur la présence de son numéro 1, Lucas Pouille.
C'est un groupe difficile, hein. Maintenant, on verra. La saison est longue. Nous, on a un groupe solidaire avec beaucoup de joueurs qui peuvent intégrer l'équipe. Donc voilà, je m'attends à avoir la meilleure équipe en face, et il va falloir se préparer pour relever ce défi de la Serbie et du Japon.
Vous avez réussi à faire changer d'avis Lucas Pouille ?
Lucas l'a annoncé il y a quelques semaines, il jouera à fond pour l'équipe de France. Et moi, je suis ravi, hein, d'avoir bien évidemment Lucas disponible pour la compétition, pour la Coupe Davis. C'est une épreuve magnifique, et puis voilà, ça reste l'équipe de France. Donc oui, les joueurs répondront présents. J'ai parlé avec pas mal d'entre eux depuis quelques semaines. Je les verrai également la semaine prochaine à Marseille.
Ouais, Sébastien Grosjean, joint par Corinne Boulou.
Qu'est-ce que vous faites ce week-end, Céline Kallmann?
Ça ne regarde que moi.
Vous êtes toujours fermé, hein, toujours. Vous fermez la porte, aucune discussion possible.
Tu sais que les micros sont ouverts, Lucas.
Il enregistre tout, Mathieu Noël.
C'est pour ça.
Merci, Céline.
Si vous souhaitez réagir, faites-le en nous écrivant sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Nico Saliagas sur Europe 1.
7h40, Jean-Michel Apathy.
Oui, je vous disais ce que je fais ce week-end.
Qu'est-ce que vous faites?
Ah oui, vous faites quoi?
Je
ne
sais pas,
je n'ai
pas encore décidé.
Vous allez lire la presse, regarder les chaînes
d'infos.
Vous allez travailler, mais vous allez nous parler dans quelques instants d'Alain Juppé.
Oui, son testament.
Très ému hier.
Ah oui, c'était très émouvant, c'était très fort et c'était très instructif, le testament politique d'Alain Juppé. Il nous dit que notre démocratie va pas très bien, c'est pas très optimiste.
Et puis à 7h43, Axel de Tarlé, Google et Amazon.
Oui, c'est assez incroyable. Amazon voulait installer un deuxième siège social à New York.
À New York.
Et figurez-vous que les New Yorkais ont refusé. Ils ont dit non, donc du coup, Amazon ne peut pas aller à New York.
Et ils vont où?
Ils cherchent un endroit.
À Cergy-Pontoise, voilà. Vous êtes les bienvenus. Apathy Tarlé, c'est dans un instant sur Europe.
Il est 7h37. Il est 7h38, Nico Saliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy.
Alors Jean-Michel, on a vu ces images touchantes, émouvantes, Alain Juppé qui fait ses adieux à la ville de Bordeaux, les yeux pleins de larmes, la main sur le cœur. Et en même temps, un discours tellement pessimiste sur l'avenir.
Oui, très pessimiste. Sur l'avenir, en tout cas sur l'état de la démocratie française. Avant d'écouter Alain Juppé, posons ce constat. Beaucoup d'entre nous, c'est-à-dire beaucoup de citoyens, disent que les hommes politiques sont égoïstes, sont cyniques, voire qu'ils ont pris dans la caisse, donc qu'ils sont corrompus, voire pourris. Et quand on a ce constat en tête, on va écouter Alain Juppé. C'était hier, il quittait la mairie de Bordeaux, et écoutez le sanglot.
C'est un arrachement que de me séparer de qui j'ai tant aimé. À qui j'ai tant donné. Allez, aidez-moi.
C'est dingue, hein.
Première question, est-ce qu'il est sincère, Alain Juppé, quand il a ses sanglots? Évidemment, oui. Est-ce qu'Alain Juppé, maire de Bordeaux depuis 1995, a servi honnêtement les gens de la ville qu'il dirigeait? Évidemment, oui. Aujourd'hui, c'est presque révolutionnaire de dire d'un homme politique qu'il est sincère et qu'il a été honnête. Parce qu'on a le sentiment de l'inverse. C'est une faiblesse de l'esprit.
Il a eu ses histoires, Alain Juppé, quand il était avec Chirac, etc. Mais
il en a eu, il a payé.
Voilà.
il a couvert Chirac, pour dire les choses simplement.
Il était dans le système aussi, mais pardonnez-moi.
Absolument. Mais enfin, Alain Juppé a été un dirigeant politique honnête et de bon niveau, et aujourd'hui, il y a une lâcheté de l'esprit à ne pas vouloir le reconnaître, et il faut mettre chaque citoyen en garde, parce que à force de creuser ces mauvais sillons-là, un jour, il pourrait nous arriver une
catastrophe. Il sort par la grande porte aujourd'hui, vous voulez.
Aujourd'hui, Alain Juppé sort par la grande porte. Quel est l'état de notre démocratie ? Très mauvais, écoutez Alain Juppé.
L'esprit public est devenu délétère. Dans ce climat général, infecté par les mensonges et les haines, l'esprit public, la vie publique, sont difficiles à vivre et lourdes à porter.
C'est pas gai, mais c'est juste. Mais dans ce constat-là, les élus ont une part... Dans le point d'arrivée, qui est celui que décrit Alain Juppé, les élus eux-mêmes ont une part écrasante. Pour aller du moins grave au plus grave, l'absentéisme dans les assemblées, c'est un poison dans les démocraties. On ne comprend pas que des gens élus ne siègent pas dans les lieux où ils ont eux-mêmes voulu, évidemment, aller. Il existe en France un sentiment d'impunité vis-à-vis d'élus qui ont triché et parfois volé. Les campagnes électorales récentes, disons dans les 20-30 dernières années, ont été tellement mensongères que les gens se sont mis à douter de manière presque systématique. Et il y a eu tellement de promesses faites n'importe comment et puis qui ensuite, bien sûr, n'ont pas été tenues parce qu'elles étaient intenables, que le doute s'est installé. Et aujourd'hui, c'est ce que dit Alain Juppé. La méfiance entre les élus et les électeurs est immense et personne ne sait comment la dissiper. Dans un pays comme le nôtre, la démocratie est quelque chose d'indépassable. On ne peut pas théoriser l'inverse de la démocratie. Personne ne dira que la dictature ou même le régime autoritaire sont supérieurs à la démocratie. Et pourtant, la démocratie peut disparaître. Ça, c'est le mystère de la politique sur lequel nous ferons mieux de réfléchir. Ce qui n'a pas d'alternative peut disparaître. Souhaitons-nous qu'un jour, nous ne connaissions pas l'accomplissement de ce mystère.
Alain Juppé qui avait beaucoup écrit sur la tentation de Venise, mais quand les politiques quittent le navire, on l'a vu avec Gérard Collomb, ils deviennent populaires et ils parlent avec sincérité, les larmes aux yeux souvent.
Oui, on aimerait qu'ils soient plus sincères et quelquefois pendant les rondes. Ça nous aiderait.
Merci Jean-Michel Apathy pour votre point de vue quotidien sur Europe 1 du lundi au vendredi. Axel de Tarlet, on va partir de l'autre côté de l'océan, chez nos amis américains. Amazon renonce à s'installer à New York, vous nous dites, face à l'hostilité des habitants. Mais pourquoi ?
Voilà, c'est assez incroyable parce qu'en général, les villes se battent pour accueillir des entreprises. Ben là, les New Yorkais ne veulent pas d'Amazon chez eux. Amazon qui voulait construire à New York son deuxième siège social avec 25 000 emplois à la clé, qui vient d'y renoncer. Donc, et pourquoi j'ai choisi de vous en parler ? Ce qui est intriguant, c'est qu'il est arrivé exactement la même mésaventure à Google. C'était en novembre dernier. Google qui voulait s'installer à Berlin, dans le quartier un peu branché de Kreuzberg. Oui. Et qui, de la même façon, a dû y renoncer, là aussi, face à l'hostilité des habitants.
Mais expliquez-nous, pourquoi cette hostilité à New York et à Berlin ?
Et ben parce que, autant quand c'est une usine qui s'installe sur un territoire, c'est parfait, ça apporte de la richesse, du dynamisme pour toute la région. Mais quand vous avez un Google ou un Amazon qui s'installe dans des grandes villes déjà saturées, eh bien la réaction est toute différente. Écoutez les habitants, ils disent « le métro est déjà plein à craquer, les écoles sont déjà pleines, et puis surtout, l'immobilier, les loyers vont flamber.
» Oui, mais ils vont quand même créer des emplois, Amazon et Google, ça devrait faire bouger les choses.
Alors, c'est ça qui est très intéressant. Que disent les habitants du Queens, puisque c'est ce quartier populaire de New York où Amazon devait s'installer ? Eh bien, ils disent non. Non, ces emplois, ce ne sera pas pour nous. Ce seront des emplois réservés à quelques happy few qui vont acheter des grosses voitures, aller dans des restos branchés et des magasins bio et chasser ainsi les classes moyennes des Queens qui n'auront plus les moyens d'y vivre et nous, on devra aller s'installer encore plus loin. Vous voyez, c'est terrible. Autrefois, les grandes entreprises apportaient du travail pour tout le monde et tout le monde en profitait. Mmh. Aujourd'hui, avec les GAFA, d'abord, les emplois sont beaucoup moins nombreux et on a l'impression qu'elles ne profitent qu'à un tout petit nombre gavé de stock options. Bref, plutôt qu'un enrichissement partagé, les GAFA sont devenus synonymes d'inégalité. Ajoutez à cela leur pratique fiscale, en l'occurrence une ristourne de 3 milliards de dollars accordée par la ville de New York. Et bien voilà pourquoi les New-Yorkais ont dit non et ils ont claqué la porte à Amazon. Ce rejet populaire devrait quand même faire réfléchir le patron d'Amazon, Jeff Bezos, qui est lui-même l'homme le plus riche du monde.
Axel de Tarlet, quotidiennement sur Europe 1, pour le Zoom Echo.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Alors dans un instant, messieurs et chères auditrices, auditeurs, je reçois un homme qui se définit comme un humaniste combattant. Ça a l'air un peu paradoxal.
Un peu.
C'est un oxymore. Et pourtant, Patrice Franceschi publie « Éthique du samouraï moderne » chez Grasset. C'est un personnage atypique que je vais vous présenter. Il est écrivain, aventurier, pilote. Il a fait la guerre aussi. Parfois, il prend les armes. Il n'hésite pas, effectivement, à défendre des causes à l'autre bout du monde. Pourquoi ? Qui est cet homme ? Que pense-t-il de la crise en Syrie ? Et que pense-t-il de la crise sociale en France ? Réponse dans quelques instants.
Excellent réveil sur Europe 1. Il est 7h44.
Des paramilitaires prêts à faire tomber le gouvernement. Les propos sulfureux du gilet jaune Christophe Chalençon dans une vidéo enregistrée à son insu par la télévision italienne. Tous les détails dès le début du journal de 8h sur Europe 1 dans un quart d'heure. Éric Drouet devant la justice aujourd'hui, l'une des figures des Gilets jaunes comparée pour organisation d'une manifestation sans déclaration préalable. Il avait appelé à un rassemblement début janvier, place de la Concorde. 14 partis, dont La République En Marche, Les Républicains, le Parti Socialiste ou encore le Modem, ont lancé un appel contre l'antisémitisme. Ils invitent les Français à se réunir partout en France et notamment place de la République, mardi à 19h à Paris. Football, le stade Rennais s'est fait rejoindre à 3 partout par le Betis Séville à la dernière minute de jeu en 16e de finale aller de la Ligue Europa alors qu'il menait 3-1 à la pause. Et puis la tendance météo du jour, du soleil partout, des températures plutôt douces entre 10 et 22 degrés, 10 degrés à Strasbourg, 22 à Biarritz.
Météo complète avec Laurent Cabrol juste avant 8h. Europe 1. Nikos Aliagas, alors que l'armée syrienne enchaîne les reconquêtes territoriales face aux rebelles et à l'État islamique, vous recevez ce matin un écrivain, aventurier, cinéaste, marin, officier réserviste et pilote, Patrick Franceschi. Il publie « Éthique du samouraï moderne », petit manuel de combat pour tant de désarroi aux éditions Grasset.
C'est vrai que le CV est impressionnant. Bonjour Patrick Franceschi.
Bonjour Nikos.
Je voulais vous recevoir ce matin d'abord, car j'ai beaucoup aimé votre livre, on va en parler dans un instant, de ce samouraï qui est selon vous un humaniste combattant, c'est déjà un premier paradoxe. Mais l'actu d'abord, avec les Kurdes de Syrie qui combattent Daesh et qui luttent pour un État indépendant, ils sont en passe de gagner ?
Territorialement, c'est clair. Dans la dernière région de l'Euphrate, dans les jours qui viennent, ce sera terminé. Ce qui est important à comprendre, puisqu'on parle aussi du retrait des Américains ou des Français, des gens qui les ont aidés pendant 5 ans, pendant cette grande campagne militaire, c'est que, idéologiquement parlant, le combat n'est absolument pas achevé.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire simplement que l'idéologie islamiste, la haine de tout ce qui n'est pas soi, est encore dans les esprits dans ces régions-là. Et pas seulement dans ces régions-là, elle se répand. Et que par conséquent, ce n'est pas parce qu'on a vaincu territorialement, mécaniquement, humainement, physiquement, ceux qui combattaient les armes à la main pendant un certain temps, que l'affaire est achevée. Si aujourd'hui, on abandonnait les territoires kurdes, c'est-à-dire ce bouclier anti-islamiste que les Kurdes
ont installé... Ce que veut
faire
Donald Trump en rapatriant ses 2000 soldats. C'est ce qu'il a annoncé.
Mais il est revenu sur sa décision. Et la France a joué un grand rôle là-dessus pour le convaincre de se retirer peut-être, mais certainement pas immédiatement et certainement pas en laissant les Kurdes aux mains à la fois du régime syrien
et des
ou des Turcs. Voilà.
Donc les Turcs pourraient effectivement venir à bout des Kurdes qui ont fait le sale boulot pour l'Europe, en gros, pour les Occidentaux, alors, on va dire, et qu'on pourrait abandonner.
Les Kurdes ont, avec nous, combattu notre ennemi commun.
Ouais.
C'est-à-dire celui, cet ennemi, qui avait mené, par exemple, les attentats en France.
Mais ils étaient aux premières loges.
Aux premières loges. Ils ont payé le prix du sang. Combattants et combattantes, vous savez qu'à peu près 30% des combattants kurdes sont des femmes. Et le prix du sang qu'ils ont payé mérite, à tout le moins, qu'on ne commette pas la faute morale de les abandonner quand le travail, encore une fois territorial, est terminé. Et la faute politique, en les abandonnant, de voir le retour, justement, de l'islamisme dans ces régions-là.
C'est-à-dire
d'avoir rien fait, de revenir en arrière.
Qu'est-ce que vous avez fait, vous, Patrice Franceschi, à côté des Kurdes ? Vous étiez là-bas en tant que militaire ?
Non. Moi, je suis un écrivain engagé.
Ouais.
Quand les Kurdes, qui sont de vieux amis, c'est-à-dire que je participe à cette révolution kurde, par exemple,
militairement
depuis le début,
aussi,
dans tous les domaines, et ne me posez pas davantage de questions
j'entends.
Sur des choses qui, au fond, n'ont pas un grand intérêt.
Pourquoi ?
Simplement parce que moi, je ne fais pas grand-chose. Ce sont les Kurdes qui font tout le travail. Et que simplement, quand ils étaient seuls au tout départ, et qu'ils m'ont demandé, parce que j'ai une longue histoire avec les Kurdes, de venir en Syrie et de voir ce que je pouvais faire pour les aider... Je me suis dit, ça va très mal, parce que si c'est que moi, c'est que ça va vraiment très mal.
C'est qu'ils sont seuls, oui. Un dernier mot sur la Syrie. Le ministre Castaner, le ministre de l'Intérieur, a évoqué le rapatriement de 130 Français djihadistes détenus par les Kurdes, justement. Vous pensez que c'est une bonne chose ou pas ?
On n'a pas tellement le choix qu'on ne peut pas ne pas s'occuper de nos ressortissants, aussi criminels soient-ils. Simplement, les derniers entretiens que j'ai pu avoir là-bas, il y a un mois et demi, notamment avec les femmes djihadistes françaises, notamment des convertis, et je l'ai déjà écrit, me laisse penser que de toute façon, ce sont des bombes à retardement qu'il faudra gérer. Ce n'est pas si simple que ça. Déradicalise pas des idéologues. C'est une faute de penser qu'il y a dans leur esprit un problème psychologique ou je ne sais quoi. Nous sommes face à une idéologie, et par conséquent, comme les nazis à une époque, car c'est le plus grand totalitarisme que le XXIe siècle connaisse, et donc on ne déradicalise pas, on combat.
En combat, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire que le combat sur le terrain doit se poursuivre, mais celui-là va être achevé. Le combat dans les têtes, idéologiquement,
et ici, dans
doit
notre,
se poursuivre.
Et dans notre pays,
c'est
en
un
France
combat idéologique également.
Également.
Et quand je parle d'éthique, ou d'éthique combattante,
dans votre ouvrage,
c'est
l'éthique du samouraï.
C'est justement pour le côté samouraï dans cette affaire-là, dans ce livre-là, dans les propos de Toshiro Izoguchi, c'est simplement.
Qui est un grand maître japonais, hypothétique ou pas.
Voilà. peut laisser planer un certain mystère, mais c'est quand même mon livre. Mais ce que je veux dire, c'est que ce terme de samouraï, il veut simplement dire qu'il faut débarrasser notre humanisme des scories qu'on lui a mis depuis quelques dizaines d'années pour lui redonner ce qu'il a toujours été, combattant. On ne peut pas défendre ni une éthique, ni un droit, ni quoi que ce soit. Aucun ne peut exister s'il n'y a pas une force pour le défendre. Mmh. Et aujourd'hui, nous avons besoin de savoir clairement, que ce soit pour l'idéologie islamiste ou pour le reste, clairement dans quelle pensée on est, parce que nous aurons, si les orages de l'histoire se rapprochent, avoir à nous battre d'une manière ou d'une autre. Mmh. Et l'éthique du samouraï moderne, c'est simplement le petit vadémécoum à mes yeux, que j'aurais voulu avoir il y a longtemps, à garder à portée de la main, comme les stoïciens dans les manuels d'autrefois, c'est-à-dire ce qu'on garde à portée de la main pour défendre aussi bien son esprit que son corps, dans les moments, moi je parle de désarroi, c'est ce qui me semble caractériser l'époque, mais dans les moments de tourmente, évidemment, qu'ont pu connaître nos anciens par exemple.
Qu'est-ce que vous recherchez, Patrice Franceschi ? Très vite, vous avez quitté l'île de beauté, à la conquête du monde, ou plutôt dans un voyage introspectif à travers les peuples que vous avez croisés. Vous êtes allé au Rwanda, vous avez fait la guerre en Afghanistan, vous avez été là en 89 quand les Ceausescu sont tombés en Roumanie. Qu'est-ce que vous recherchez ? Parce que d'un côté, vous écrivez, de l'autre, vous filmez, vous faites des documentaires. Mais il recherche quoi, l'homme, que vous êtes l'intellectuel ?
C'est une question très intéressante, mais qui demande un peu de temps. En réalité,
en quelques minutes.
Je pense que vous connaissez l'injonction de Pindare, il y a 2500 ans.
Bien sûr, pré-socratique.
Oui. Et qui était, ne cherche pas au mon âme la vie éternelle, mais cherche à épuiser le champ du possible. Pour moi, il n'y a pas de développement personnel, ce grand mot dont on entend beaucoup parler aujourd'hui.
Ça, vous n'aimez pas. Hein.
Je n'aime
vous
pas
n'aimez pas
l'idée...
les émotions.
Je dis simplement que la raison, une des maladies de notre siècle, c'est la domination de la raison par les émotions.
Ouais.
C'est l'inverse qu'il faut faire. Les émotions, c'est un truc formidable, mais ce qui caractérise notre humanité, c'est deux choses. L'emploi de notre raison et l'emploi de notre liberté. Ce que je vois, ce qui s'érode aujourd'hui, par exemple, c'est pas tant les libertés elles-mêmes, mais la volonté de vivre libre, c'est-à-dire de penser et d'agir par soi-même. Mmh. Et quand j'écris Éthique du samouraï moderne, c'est pour essayer de redonner cette idée que le danger qui nous guette, c'est pas tant ou les guerres, les choses comme ça, mais cette idée même que, au fond, vivre libre, c'est tellement compliqué qu'il vaut mieux qu'on s'en passe ou qu'on nous dispense même de la plus grande des fatigues qui est de penser par soi-même. C'est la fable du loup et du chien.
J'entends.
Et je pense que la domestication dans laquelle on essaie de nous pousser petit à petit méritait qu'on y réfléchisse et de trouver quelques solutions sous forme d'un petit vadémécum.
Est-ce qu'il y a une résonance, sans faire d'anachronisme ou de comparaison hasardeuse, avec ce qu'on entend dans la rue aussi, tous les samedis, vous parliez de domestication, des gens qui sortent dans la rue et qui disent « nous, on n'est pas d'accord, on nous embobine, on nous ment ». Est-ce que vous êtes dans cet état d'esprit ?
Alors, non, pas tout à fait, parce que nous vivons, au-delà du fait que nous vivons une époque, l'époque post-héroïque, nous vivons aussi l'époque de la post-vérité. C'est même d'ailleurs théorisé comme ça. Et le danger, c'est de penser qu'au fond, ce n'est pas très grave. Et je pense que le mouvement des Gilets jaunes,
globalement,
tout ce que l'on voit,
le philosophe,
tout ce que l'on voit finalement est suscité par du désarroi qu'il n'y avait pas à une époque où nous étions plus sûrs de nous-mêmes ou du monde tel qu'il allait devenir. Une des grandes questions que la plupart des gens sentent ou pensent ou disent, c'est qu'on ne sait pas très bien d'abord où on va, civilisationnellement parlant, et nous ne sommes pas qui nous sommes déjà, et en plus de ça, de ce que l'homme va devenir vraiment. Qu'est-ce que va devenir l'homme demain ? C'est la grande question existentielle à se poser aujourd'hui. Avec les nouvelles technologies, avec
l'intelligence artificielle,
et tout le reste. On ne sait pas très bien.
La nouvelle géopolitique.
Et donc, les gens, au fond, parce qu'on ne leur répond pas clairement à cela, ou que personne, tout le monde est dans le brouillard, eh bien, ça génère du désarroi, de l'angoisse, et des réactions pas forcément intelligentes ou pas forcément raisonnées. Voilà. Mais c'est le problème du siècle, tout de même.
C'est une histoire de projection difficile à faire et peut-être aussi d'identité. Votre ouvrage, pour moi, était un régal. Ça s'appelle « L'éthique du samouraï moderne » chez Grasset. Vous citiez tout à l'heure Pindare. Je vais vous répondre avec Parménide, je crois, qui dit
« formidable.
Deviens ce que tu es ». C'est peut-être ça, un dernier mot pour clore cet entretien.
Alors, quand Parménide ou Héraclite ou tous les autres, ou Socrate plus tard, connais-toi toi-même, etc., essaient de faire comprendre que nous avons au moins une fonction, c'est de devenir nous-mêmes. Dans l'éthique du samouraï, j'en rajoute une deuxième, nous avons aussi comme fonction de combattre le chaos. Et ce que j'appelle le chaos, c'est ce qui risque de venir, c'est à la fois la guerre de tous contre tous, et en même temps, cette érosion de la volonté de vivre libre. Voilà, moi j'écris ce livre pour essayer de défendre cela, et de, comment dirais-je, mettre même moi-même en place complètement mes idées là-dessus, en 327 propos que je place dans la bouche évidemment d'un japonais.
Patrice Franceschi, éthique du samouraï moderne, merci d'avoir été avec nous, un ouvrage publié chez Grasset.
Et si vous souhaitez réagir, faites-le avec le hashtag Europe 1.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
À ne pas manquer dès le début du journal de 8h, des paramilitaires prêts à faire tomber le gouvernement. Emmanuel Macron à la guillotine, les propos complètement dingues du leader des Gilets jaunes, d'un des leaders des Gilets jaunes, Christophe Chalençon. Il a été filmé à son insu par la télévision italienne. Et puis dans une minute, la petite histoire de Jean-Philippe Ballas. Ce matin, une application de rencontre pour vaches. Oui, oui, le Tinder des bovins, ça existe.
Bon réveil sur Europe 1, il est 7h56. Il est 7h57, Nikos, c'est l'heure de la petite histoire du jour.
Racontez-moi cette histoire de Tinder des vaches, je n'ai absolument rien compris. Jean-Philippe Ballas, bonjour.
Bonjour, c'est une appli comme Tinder, mais pour les vaches. Vous connaissez Tinder, des hommes, des femmes qui défilent sur votre écran. Quand il y en a un qui vous plaît, hop, coup de pouce à gauche. Quand ça ne vous plaît pas, coup de pouce à droite. Je crois même que c'est l'inverse. Alors là, c'est la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir une jolie fille de Bourgogne ou un beau mec de Strasbourg, bah vous avez une limousine ou un taureau. Quand ça ne vous plaît pas, ça fait... Mais quand ça vous plaît, ça fait... Je ne suis pas responsable des bruitages. Je précise quand même, les amis, cette appli est tout à fait sérieuse. Elle s'appelle Todder, sur le modèle donc de Tinder. Elle existe en Grande-Bretagne pour favoriser les rencontres, les accouplements et donc la reproduction des espèces. Bah oui, pour les éleveurs, c'est très futé parce qu'ils n'ont plus besoin de se déplacer systématiquement dans une foire aux bestiaux. On gagne du temps. La recherche est plus pointue avec une appli qui revendique tout de même plus de 40 000 profils aujourd'hui en Grande-Bretagne. Alors, j'ignore si elle débarquera un jour en France. Bon, en même temps, nous, pour les rencontres, on est un peu de la vieille école. On a le salon de l'agriculture. La fièvre porte de Versailles. Ça commence le week-end prochain, les amis. Et à mon avis, chaud entre bovins. Je confesse pour ma part une passion sincère pour les charolaises. J'adore leur côté massif, contemplatif, parce que oui, vous savez quoi, en vrai, la vache, ça m'émeut.
Mais qui vous a dit que la vache, l'amour vache, n'était pas passionnant ? Merci Jean-Philippe Ballas pour la petite histoire quotidienne avant le journal de 8h.
Et justement, il arrive David Doucan dans un instant, mais tout de suite, c'est la météo avec Laurent
mon
Cabrol.
Mon Dieu, tout
ça. Ça vous plaît cette application
vache, vous, hein. Tout ça me laisse bouche bée. Allez, on va enchaîner avec les températures du matin, entre moins 4 et plus 6, les températures de la journée entre 12 et 20 degrés. Voilà, nous avons de quoi maintenant nous réjouir, puisqu'il fera beau aujourd'hui, un temps ensoleillé. Demain et après-demain, ce sera presque la même chose, avec quelques nuages dans le Finistère et peut-être quelques pluies, et toujours du vent marin dans le golfe du Lion. Voilà pour les nuances, mais demain, nous aurons et après-demain exactement le même type de temps. Et en ce qui concerne le lundi-mardi, ça va se gâter, mais ça ne durera pas. C'est ce que je vous dis depuis le début de la semaine, se confirme, à savoir qu'à partir de mercredi, on retrouvera un temps quasiment identique à celui d'aujourd'hui.
Merci, à tout à l'heure, Laurent Cabrol.
Et merci d'avoir choisi Europe 1 ce vendredi 15 février. Il est 8h, bienvenue à tous. Votre matinale info se poursuit jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas.
Le journal présenté par David Doucan. Bonjour.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
Toute l'actualité du jour, David.
Des paramilitaires prêts à faire tomber le gouvernement. Emmanuel Macron et le mot guillotine dans la même phrase. Lorsqu'on est enregistré à son insu, on dit ce qu'on pense. Les propos sulfureux du gilet jaune Christophe Chalençon. Récit dès le début de ce journal. C'est ce que l'on appelle un blocage. Les négociations sur l'assurance chômage sont très tendues, en cause les contrats courts, patronat et syndicats semble à ce stade irréconciliable. Et puis, il le veut, son mur à la frontière mexicaine. Donald Trump s'apprête à déclarer l'urgence nationale pour contourner le Congrès démocrate.
Et à 8h12, un député slovène démissionne après le vol d'un sandwich. Vincent Herouet nous dira que le seuil de tolérance au comportement des politiques varie selon les pays d'Europe. 8h15, elle était avec Emmanuel Macron hier dans l'Indre. Jacqueline Gourault, la ministre des Territoires, répondra aux questions d'Audrey Crespo-Mara.
Europe 1.
C'est l'homme qui a déclenché la crise entre la France et l'Italie. Le gilet jaune du Vaucluse, Christophe Chalençon, le ministre italien Luigi Di Maio, lui avait rendu visite au début du mois et par la suite, Paris avait rappelé son ambassadeur à Rome. Nous apprenons à l'instant que cet ambassadeur rentre à Rome aujourd'hui. Eh bien, Christophe Chalençon a été enregistré à son insu par une télévision italienne et... Aude Vernuccio, les propos sont particulièrement virulents.
Oui, on entend Christophe Chalençon se confier sans détour. Il dit se sentir menacé par l'État français, se croit surveillé par une sorte de police politique et ça donne des propos qu'il croyait privés et qui expriment une conception violente de la politique. Écoutez.
J'irai au bout de mes convictions. Parce que s'ils me mettent une balle dans la tête, Macron, il est passé à la guillotine. Aujourd'hui, on est arrivé à un tel point de confrontation que s'ils m'abattent, il est mort aussi. Parce que le peuple, il rentre dans l'Élysée, il démonte tout. lui, sa femme et toute la clique. On a des paramilitaires qui sont prêts à intervenir parce qu'ils veulent aussi tomber le pouvoir. Donc aujourd'hui, tout le monde est calme, mais on est à la limite de la guerre civile, je te l'ai dit.
Guillotine, rentrée dans l'Elysée, paramilitaire, la journaliste en reste bouche bée. Des termes qui reprennent les théories complotistes, mais que l'on avait rarement entendu de manière aussi directe dans le discours des Gilets jaunes. Certains leaders se sont d'ailleurs éloignés de Christophe Chalençon, qui a quitté les cortèges et les manifestations, pour lancer, il y a quelques jours, son propre mouvement politique aux européennes, le MAC, ou Mouvement Alternatif Citoyen.
Et alors, Aude, est-ce que vous en savez plus sur les circonstances de cet enregistrement ?
Alors oui, la journaliste italienne nous a raconté comment ça s'était passé. À la fin de l'interview avec Christophe Chalençon, elle a laissé tourner la caméra et c'est là qu'il a tenu ses propos, des propos tellement graves d'après elle qu'elle a choisi ensuite de les diffuser.
Merci à vous Aude Vernuccio pour ce dossier préparé avec Hélène Terzian. J'ajoute, Nikos, que Christophe Castaner a réagi. Est-ce une comédie à l'italienne ou juste un nouveau délire personnel, a-t-il écrit sur Twitter ? On verra dans les prochaines heures si la réaction du ministère de l'Intérieur en restera à ce tweet ou si une enquête sera ouverte. Et un autre gilet jaune sera dans l'actualité aujourd'hui. Éric Drouet comparaît devant le tribunal correctionnel de Paris. Le chauffeur routier de Seine-et-Marne sera jugé pour organisation de manifestations sans déclaration préalable et de nouvelles manifestations se préparent pour demain. Ce sera le 14e samedi de mobilisation.
Dans le reste de l'actualité, négociations bloquées sur l'assurance chômage notamment.
Oui, la pomme de discorde, ce sont les contrats précaires. Les syndicats veulent un système de bonus-malus. En clair, que les CDD coûtent plus cher aux patrons. Une réunion hier soir a une nouvelle fois tourné court. Les représentants de salariés menacent de boycotter le prochain rendez-vous. Écoutez Denis Gravouille, le négociateur de la CGT.
On a un patronat qui est complètement accro à la précarité, qui ne veut entendre parler d'aucun système de régulation, qui veut mettre éventuellement quelques pansements sur la précarité, mais qui ne veut surtout pas la remettre en cause. Si d'un seul coup, par miracle, le MEDEF se mettait à changer complètement d'avis, faire un virage sur elle à 180 degrés et se mettait à envisager un système de bonus-malus, une surcotisation, on regardera ce qui se passe dans le texte. Mais franchement, il faut arrêter de prendre les vessies pour des lanternes, on verra bien.
Denis Gravouille de la CGT était avec Olivier Samin. Bonjour Emmanuel Duteil.
Bonjour David.
Pourquoi, Emmanuel, vous êtes le chef du service économie d'Europe 1, pourquoi le patronat est-il à ce point opposé au bonus-malus ?
Parce que selon eux, ça mettrait à terre des secteurs entiers comme celui des traiteurs, de la restauration, de l'hôtellerie ou encore des services à la personne. Tous ces secteurs utilisent en effet beaucoup de contrats courts pour réaliser des missions très ponctuelles. Un traiteur, par exemple, a besoin de quelques heures d'extra pour le week-end. C'est pour cela que le patronat est au premier rang desquels le MEDEF ne veut pas entendre parler de ce système de bonus-malus. Ça alourdirait trop, selon eux, le coût du travail. L'idée de cette mesure, c'est en effet de taxer les entreprises qui ont fortement recours à ces contrats. Le patronat a bien fait quelques propositions annexes hier soir, mais pour le moment, tout est bloqué.
Bon, c'est de la posture ou bien on va en sortir ?
Eh bien, côté patronat, ce n'est pas une posture. On est vent debout. Il faut voir en plus que c'est la première grosse négociation pour le nouveau patron du MEDEF. Commencer par accepter de taxer le travail, ce serait comme casser un gros tabou dans les rangs patronaux. Et puis les syndicats, et c'est très important, se sentent soutenus. Il ne faut pas l'oublier, ce système de bonus-malus est une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Promesse plusieurs fois renouvelé depuis. Donc si le patronat et les syndicats devaient ne pas réussir à se mettre d'accord lors de la prochaine réunion, ce sera la semaine prochaine, et bien ce serait le gouvernement qui reprendrait directement la main. Et le week-end dernier sur Europe 1, la ministre du Travail a été très claire. On mettra en place ce système de bonus-malus, a-t-elle prévenu.
C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, le bonus-malus.
Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1.
C'est Nicolas Florian qui va succéder à Alain Juppé à la mairie de Bordeaux. Il était jusqu'à présent adjoint aux finances. Virginie Calmels, qui était pourtant pressentie pour être la dauphine, a annoncé son prochain retrait de la vie politique. Elle retourne dans le secteur privé.
À l'international, la contre-attaque de Donald Trump.
Oui, les démocrates refusent toujours de financer son mur à la frontière mexicaine. Le président dégaine une arme lourde. Il va déclarer l'urgence nationale. Sonia Dridi, vous êtes notre correspondante à Washington. C'est une procédure qui lui permettrait de contourner le Congrès.
Oui, c'est un dispositif exceptionnel. Il permet au président américain de contourner le Congrès, de le court-circuiter et de faire sans lui. Concrètement, il pourra par de simples décrets s'octroyer des pouvoirs extraordinaires et faire par exemple appel à l'armée pour s'attaquer à la fabrication du mur. Cette procédure est à la disposition du chef de la Maison-Blanche depuis une loi de 1976. Plusieurs présidents en ont déjà fait usage, mais dans des circonstances très particulières. George W. Bush l'avait déclenché après les attentats du 11 septembre 2001 pour donner davantage de moyens aux militaires ou encore pour lancer des programmes secrets de surveillance. Barack Obama, lui, l'avait utilisé lors de l'épidémie de grippe H1N1 pour permettre aux hôpitaux de réagir plus rapidement. À chaque fois, le Congrès avait soutenu le président, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Les démocrates parlent d'un grave abus de pouvoir et d'une tentative désespérée de Donald Trump. En coulisses, de nombreux républicains s'inquiètent également de ce coup de force du président, car cette procédure sera très certainement contestée devant les tribunaux, ce qui ne va pas apaiser le climat politique américain.
Merci à vous, Sonia Dridi. Vous êtes l'une de nos correspondants à Washington.
Europe 1.
À suivre dans le journal, une cagnotte pour sauver le bar-tabac d'un petit village. Reportage à suivre dans le journal de David Doucan. À tout de suite.
Il est 8h08, votre matinale info, Nikos Aliagas.
La suite du journal avec David Doucan. Vous nous parlez de la désertification de nos campagnes, David, ce matin.
Oui, absolument. Hier, en déplacement dans l'Indre, Emmanuel Macron échangeait avec le président des associations des maires ruraux de France, Vanik Berberian, lui disait « C'est quand il n'y a plus de bistrot qu'un village est mort ». Alors justement, je vous emmène en Alsace. Une femme a lancé une cagnotte pour sauver son tabac presse. Là se passe à Metzeral, dans la vallée de Münster. Reportage Arthur Mbaché.
Sur la façade de la maison juste en face du marchand de journaux, il y a une inscription que le temps a rendue à peine visible. Boulangerie, pâtisserie, le passé, commerce fermé comme tant d'autres dans le village. Pour que le tabac presse ne soit pas le prochain sur la liste, une cagnotte vient donc d'être lancée. Martine est née ici, à Metzeral.
J'ai vu ça ce matin, je vais essayer de faire un petit don aussi, en espérant que tout le monde suive, parce que c'est vrai, on n'a plus grand-chose à Metzeral. Moi, je suis originaire d'ici, on avait 3 boucheries, 4-5 bars. S'il n'y a plus de marchands de journaux, les gens devront bouger sur Münster. Puis il y a pas mal de personnes âgées, ce serait vraiment, vraiment dommage. Il faut que ça bouge, il faut qu'elle reste là.
Entre le financement de ses travaux, les jeunes qui ne lisent plus le journal, dit-elle, ceux qui achètent les cigarettes en Allemagne, Sonia Dubois ne s'en sort pas.
Oui, moi ça fait maintenant, on va dire une bonne année que je me bats pour essayer de garder mon magasin et il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr. Hein. C'est quand vous voyez qu'un mois vous n'arrivez pas, toute seule je ne pense pas y arriver. Donc c'est pour ça que je demande un petit peu de l'aide.
Il me faudrait 10 000 euros, dit la patronne du tabac presse. Metzeral, Arthur Elmbaché, Europe 1.
Maintenant, la sortie d'un film que vous connaissez tous et qui fait polémique.
Oui, Grâce à Dieu, long métrage signé François Ozon, l'histoire du prêtre lyonnais, le père Bernard Prénat, accusé de pédophilie, il est en attente de jugement. Et c'est bien ce qui pose problème, Mathieu Charrier. Son avocat demande que la sortie du film prévue mercredi prochain soit repoussée.
Oui, en fait, le parti pris de François Ozon, c'est de raconter cette affaire du point de vue des victimes, à travers notamment la création de La Parole Libérée, leur association. Sauf que le réalisateur a changé dans son film les noms et prénoms de ses victimes, mais pas ceux du père Prénat, du cardinal Barbarin ou de Régine Maire, collaboratrice de Barbarin à l'époque. Or, tous les trois sont présumés innocents, même si le père Prénat a reconnu les faits. La loi interdit de présenter comme établie la culpabilité d'une personne avant qu'elle ne soit jugée, explique son avocat, Maître Mercinier. Alors de son côté, le réalisateur répond qu'il s'est appuyé sur des déclarations du père Prénat, qu'il n'a rien inventé. Il précise que le film sort avant le procès, car le Festival de Berlin l'a sélectionné et diffusé dès la semaine dernière. Ce n'est, selon lui, pas un coup marketing. Reste qu'une telle requête, exiger le report de sortie d'un film, est rarissime. Et c'est encore plus rare que le tribunal suive ses demandes. La dernière fois que la sortie d'un long métrage avait été repoussée, c'était en 1973, les Noces rouges de Claude Chabrol. Le film était sorti 15 jours en retard sur décision administrative pour éviter qu'il ne tombe en plein milieu du procès.
Et si le film est interdit, on fait quoi ?
Il est repoussé. Bah après, on verra à quelle date il sera repoussé.
Est-ce qu'on peut interdire un film aujourd'hui en France ?
On peut interdire, mais c'est quand même très rare parce que ça s'appelle de la censure.
Mais donc, il y a un jugement du tribunal qui est aujourd'hui, c'est bien cela ?
Non, aujourd'hui, c'est l'audience.
L'audience se tient aujourd'hui à 11h.
Exact.
Confirmé. Mathieu Charrier du service culture d'Europe 1, vous nous parliez du film Grâce à Dieu de François Ozon. Un mot de football pour conclure ce journal, Nikos. C'était un 16e de finale aller en Ligue Europa hier soir. Le club de Rennes recevait le Betis Séville. Score final de ce match, 3 partout.
Le journal de 8h était présenté par David Doucan.
La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas.
Et les 8h12, coup d'œil à l'actualité internationale avec vous, Vincent Hervouet.
On va parler, mon cher Vincent Hervouet. Bonjour. Hervouet, bonjour. De morale politique. On va partir en Slovénie, entre l'Italie et l'Autriche, et c'est un sandwich qui a éclaté hier. Qui a éclaté la polémique, en fait.
Oui, Darij Krajcic a eu plusieurs vies. D'abord universitaire, spécialiste de la forêt, puis haut fonctionnaire chargé du développement durable. Enfin, la politique. Hier, il était député du parti de centre-gauche au pouvoir à Ljubljana. Ce matin, il est au chômage aussi seul au milieu de ses vies en miettes qu'un ours slovène déporté dans les Pyrénées. Il a trop parlé. Mardi, le Parlement se penchait sur le scandale de la viande avariée polonaise. Et en marge du débat, le député explique aux caméras qu'il n'y a pas de contrôle infaillible. Il raconte qu'un jour, il achète un sandwich. Il attend devant la caisse que les trois employés du magasin arrêtent de bavarder. Perdant patience, il part sans payer. Et tout ça sous l'œil fixe de la caméra vidéo. Elle ne l'a pas empêché de commettre son larcin, CQFD. C'était une expérience sociale, dit-il, et ça ne lui a pas coupé l'appétit. Un peu plus tard, il est revenu pour payer son dû.
Ah, quand même, ouais.
Fin de la démonstration, début du scandale, début de l'exécution. Parce que le député est le seul à penser qu'il a payé son dû, qu'il est quitte, qu'il faut passer l'éponge. Le parti est intransigeant en matière d'éthique, c'est sa stratégie face aux populistes qui montent et qui sont dirigés par un ancien Premier ministre qui a été condamné par la justice. Hier, le parti a condamné un acte inadmissible et invité le député à assumer ses responsabilités. Il est allé à la télé comme on allait jadis à Confesse, il a reconnu son erreur, il a renoncé à son mandat. Fin d'une carrière politique, Darić Krasić est rendu à ses montagnes et à ses forêts.
C'est implacable.
Dans le classement de Transparency International sur la corruption telle qu'elle est perçue par ses habitants, la Slovénie est 34e, la France 23e. Les Français sont moins corrompus que les Slovènes, ou les Slovènes sont moins indulgents que les Français, surtout avec leur classe politique. À Ljubljana, la Cour suprême est composée de juristes, pas d'anciens ministres. Comme aux États-Unis, où personne n'imaginerait de nommer un sage ayant un casier judiciaire. À Ljubljana, l'église zombie transuniverselle de la bienheureuse sonnerie rassemble ses adeptes équipés de casseroles devant le Parlement. L'office est bruyant, le sermon est simpliste, nous sommes dirigés par une élite de cinglés au pays de la corruption et nous devons sonner nos cloches jusqu'à ce qu'ils s'en aillent. Derrière la blague de potache, il y a un groupe d'universitaires qui accuse l'État moderne d'être incapable de remplir ses engagements sociaux. Si cette église mettait des chasubles, ce serait sans aucun doute des gilets jaunes.
Mais c'est pas une plaisanterie, l'église zombie transuniverselle de la bienheureuse sonnerie.
C'est la 46e église en Slovénie et elle a droit à des exemptions fiscales grâce à ça.
Vous n'êtes pas adepte ?
Non, pas vraiment. Non.
Vincent Hervouet sur Europe 1.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Restez avec nous dans deux minutes. L'interview politique d'Europe 1, ça vous a fait rire, ça, Audrey Casposmar?
C'était pas mal.
Je connaissais pas l'église zombie transuniverselle de la bienheureuse sonnerie.
Personne ne connaissait ça. Bonjour Nikos, bonjour à tous.
Qui est votre invité ce matin?
Eh bien écoutez, si elle est par la nature même de son ministère très impliquée dans le grand débat, elle y apparaît étonnamment peu. Par discrétion ou par éviction, Jacqueline Gourault, ministre des Territoires, sera mon invitée.
Elle est déjà en studio, à tout de suite.
Et il est 8h15.
La ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gourault, et votre invitée, Audrey Crespo-Mara.
Bonjour Jacqueline Gourault.
Bonjour.
Depuis que Sébastien Lecornu accompagne le président dans tous les débats, on a l'impression que c'est lui le ministre des Territoires. Et pourtant, normalement, il n'est que le ministre numéro 2, et c'est vous, hein, le ministre numéro 1. Vous êtes mise volontairement en retrait ?
Sébastien Lecornu est ministre des Relations avec les Collectivités Territoriales. Certes, il est auprès de moi, mais vous savez, et il y a aussi Julien de Normandie, mais vous savez, il y a beaucoup de travail dans ce domaine et on n'est pas trop de trois. Et chacun prend... comment dire, ses responsabilités et sa mission à l'intérieur du ministère.
En fonction de sa nature.
Absolument.
Hein. Alors, ça fait plus d'un an et demi que vous êtes au gouvernement et vous vous mettez rarement en avant. C'est par timidité, par modestie, peut-être
C'est ma nature.
Ouais.
C'est ma nature profonde. Je fais le travail parce qu'il y a beaucoup de travail. Je ne cherche pas forcément à être sous les feux de la rampe.
C'est ça, c'est donc la différence. Et à force de
discrétion... Ah mais je n'ai pas dit ça, je...
À force de discrétion, Jacqueline Gourault, certains vous confondent avec... Jacqueline Mourot, figure des Gilets jaunes.
Mais qu'est-ce que vous faites du pognon ?
On vous confond souvent avec elle ?
C'est-à-dire qu'au début, quand elle est apparue sur la scène médiatique, si je puis dire, Jacqueline Mourot, Jacqueline Gourault, il y avait une consonance de proximité qui était assez grande. Ça a été assez drôle parce que un certain nombre de gens, au départ, ont cru vraiment que c'était moi qui m'exprimais sur les ondes.
Oui.
Et ça a surpris un peu, évidemment, étant donné l'expression et la connotation qu'elle avait. Mais bon, évidemment, tout ça est rentré dans l'ordre, si je puis dire.
Jacqueline Gourault, donc, ministre des Territoires. Selon une étude du CEVIPOF, 80% des maires sont mécontents de la nouvelle organisation territoriale décidée en 2015 sous François Hollande. Cette loi, qu'on appelle la loi NOTRe, a largement renforcé les pouvoirs des intercommunalités, ce qui fait que certains maires, les maires, se sentent dépossédés de leurs compétences. Comptez-vous rendre le pouvoir aux petites communes ?
Alors, il est vrai que la loi NOTRe a participé à l'agrandissement des intercommunalités et que cela a provoqué sur certains territoires, je dis bien sur certains, je dirais un certain sentiment d'être délaissé, de ne plus avoir de capacité à agir. Mais je crois que dans tout cela, il faut garder raison, c'est-à-dire que l'intercommunalité s'est construite au fil du temps. La première loi importante a été celle du ministre de l'Intérieur.
Mais est-ce que
en 99, et tout ça s'est construit, je dirais, sur la volonté des élus.
Ouais.
Mais quand on force les élus, au fond, à agrandir les intercommunalités, qu'on oublie de les laisser, de les consulter, de faire ce qu'ils ont envie de faire, eh bien, ça provoque ces mécontentements.
Alors, est-ce que vous comptez abroger cette loi ou la modifier simplement ?
On ne va pas abroger cette loi, mais on peut amener de la souplesse dans les relations entre les communes et leurs intercommunalités. Je voulais parler, bien sûr, de Jean-Pierre Chevènement il y a quelques instants.
Jacqueline Gourault, dans les débats, les déserts médicaux font l'objet de nombreuses plaintes. Pourra-t-on régler ce problème sans obliger les jeunes médecins à venir s'installer dans les territoires où l'on a vraiment besoin d'eux ?
Alors, je crois que c'est, quand on va sur le terrain, le problème numéro un qu'expriment les maires, la désertification médicale. Deuxièmement, le gouvernement n'a pas choisi de mettre en place des mesures coercitives, mais toute une batterie, si je puis dire, de mesures qui vont faciliter l'installation des jeunes sur le territoire. Notamment, le gouvernement lance un projet de 400 médecins fonctionnaires pour les installer sur les territoires les plus en déprise. Et puis, une chose qui me semble intéressante aussi, qui est dans le projet de loi de Mme Buzyn, c'est de faire en sorte que des étudiants puissent être payés, si je puis dire, pendant leurs études. Et à la fin de leurs études, de donner 10 ans de leur vie, ça a déjà existé dans l'éducation nationale sous d'autres périodes, pour aller justement s'installer là où on leur dira de s'installer, c'est-à-dire dans des zones en déprise. Je crois que ce qui est le problème aujourd'hui numéro un, c'est que nous avons paradoxalement une des médecines les meilleures du monde. Quand on a des choses très graves, on trouve toujours à se soigner, mais pour le quotidien, je dirais pour la médecine quotidienne, quand vous avez la grippe, une angine, etc., vous avez du mal à trouver un médecin. Et évidemment, il y a aussi la disparition du numerus clausus qui est dans la loi, qui portera ses effets, mais évidemment pas immédiatement, puisque chacun sait qu'il faut une dizaine d'années pour faire un médecin, si je puis dire.
Jacqueline Gourault, quand on parle de décentralisation, est-ce que les élus locaux ne sont pas les mieux placés pour fixer eux-mêmes les limites de vitesse sur les routes de leur département ?
Eh bien, vous savez que le gouvernement a ouvert cette possibilité. C'était la revendication des départements. Alors, pourquoi les départements ? Parce que les départements ont la compétence des routes. Et c'est vrai que le gouvernement a dit qu'on pourrait discuter avec les départements.
On aurait pu le faire dès le début.
Oui, ça, mais je dirais que, vous savez, la sécurité routière, c'est du régalien. Et la sécurité routière, ça n'est pas du législatif, c'est du réglementaire. Et ça a toujours été comme cela. Quand un ancien président de la République a décidé que le port de la ceinture de sécurité serait obligatoire, il n'a pas consulté les collectivités territoriales.
Et là, on aurait
dû
le faire
plus tôt. Mais là, je crois que ça serait effectivement du bon sens.
Jacqueline Gourault, il semble acquis que le président proposera un référendum à l'issue du grand débat. Faut-il organiser ce référendum le même jour que les européennes ?
Pour ma part, je ne suis pas favorable à cette solution. Je l'ai déjà exprimé, car je pense que le débat européen est très important, que ça contribue bien sûr au développement de notre pays et de l'ensemble de l'Europe. Et je pense qu'il ne faut pas dévier de ce sujet en mettant en parallèle un référendum qui pourrait être sur un autre sujet, sur les institutions peut-être. Je pense que le référendum est un outil utile que peut-être le président de la République décidera d'utiliser, mais c'est à lui et à lui seul que revient cette initiative. Mais en tout cas, je ne pense pas que ce soit une bonne idée que ce soit le jour des élections
ça
européennes.
Ça ne permettrait pas de mobiliser davantage les électeurs qui sont assez peu mobilisés en général pour les européennes en associant ce référendum ?
Oui, mais écoutez, moi je crois qu'il faut essayer de mobiliser pour les européennes et montrer l'importance que cela a.
Merci Jacqueline Gourault, merci à vous.
Audrey Crespo-Mara pour l'interview politique de la matinale. Merci mesdames. Et puis à noter que ce dimanche, la tête de liste Les Républicains aux élections européennes, François-Xavier Bellamy, sera l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. Interview à suivre en direct dès 10h sur notre antenne.
Nicolas Aliagas sur Europe 1.
Dans un instant.
La météo de Laurent Cameron, Nicolas.
Et à 8h30, l'essentiel de l'info. Retour sur cette sinistre affaire dans un EHPAD du Val-de-Marne. L'aide-soignant qui a violenté une pensionnaire de 98 ans va être jugé en comparution immédiate ce matin. Et puis, face à l'urgence climatique, les jeunes se mobilisent. Vous entendrez leurs revendications.
Excellente matinée sur Europe 1 avec Nicolas Aliagas. Il est 8h25. À suivre dans la prochaine demi-heure, Nicolas.
Que dit la presse ce matin, mon cher David Abiker?
Je vais vous parler de la façon dont la crise des gilets jaunes peut inspirer les patrons et tous les gens qui ont une responsabilité dans le pays, mais surtout d'une machine à distribuer le pain qui permet de lutter contre la suppression des boulangeries dans les déserts ruraux.
Et avec ceci?
C'est tout, je vous remercie.
D'accord. 8h40, la chanson du Trublion, Nicolas Canteloup et sa revue de presque.
Mais tout de suite, Rénoval vous présente la météo. Profitez d'un temps toujours clément avec Rénoval, véranda et abri de piscine. La météo, c'est avec Laurent Cabrol, Nicolas.
Vous avez des chouquettes, Laurent Cabrol?
Non, pourquoi?
Il paraît qu'il ne faut pas manger les matinaliers à la radio quand ils mangent dès 4h du matin, prennent 10 kilos.
Oui.
Et vous, vous arrivez à avoir toujours cette silhouette de jeune homme.
Non, moi j'ai pris les 10 kilos avant de commencer. Je ne les ai pas perdus. Alors, je voulais vous parler de tonnerre, beaucoup de chouquettes. C'est pas mal qu'on on va prendre la comparaison. Imaginons que l'anticyclone soit une chouquette. Alors, la chouquette n'a pas un rond parfait et il y a des petites aspérités. Et quand l'anticyclone bouge, les aspérités bougent et vous avez une modification des vents. Alors, ça a l'air de rien, cette petite histoire, mais ça prouve une chose, c'est que dès que le vent change, nous allons avoir un temps totalement différent. Là, il est en train de changer, le temps, parce que l'anticyclone a un petit peu bougé et nous allons avoir des vents de sud. Et donc, pour demain et après-demain, nous serons sous un temps quasi printanier, c'est-à-dire qu'il va faire encore plus chaud qu'aujourd'hui, où les valeurs se situent entre 12 et 20 degrés. Vous me suivez ?
Totalement. Bon. Alors mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va tous tomber malades. On va se mettre en chemisette et voilà, c'est parti.
On ça est veut pas dire bien. Qu'on va avoir un peu plus chaud. Et cela veut dire que si on était en été, on serait quasiment aux portes d'une petite canicule. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que là, heureusement, on est en hiver et quand l'air froid était là depuis plusieurs jours, c'est lui qui nous a réconfortés en quelque sorte. Et là, maintenant, en conclusion, demain et après-demain, il fera un temps printanier. Ensuite, ça va un petit peu se gâter parce que la chouquette aura bougé. Et ensuite, elle va revenir à sa place, la chouquette. À partir de mercredi. C'était la météo chouquette.
On va en profiter. Merci Laurent Cabrol. À tout à l'heure. On se retrouve dans une demi-heure.
7h, 9h, 2h d'info sur Europe 1.
Nous sommes le vendredi 15 février. Toute l'actualité à 8h30 avec vous, Nicolas Aliagas.
L'aide-soignant d'un EHPAD du Val-de-Marne doit être jugé en comparution immédiate. Aujourd'hui, soupçonné de violence sur une femme de 98 ans, il a fini par reconnaître les faits. Pierre Herbulot.
Dans un premier temps, l'aide-soignant nie tout en bloc. Non, il n'a pas giflé cette dame. Il ne lui a pas demandé de fermer sa gueule quand elle appelait à l'aide. Il n'a pas non plus tiré par les cheveux la nonagénaire pour la relever alors qu'elle venait de se briser le fémur en tombant. Sauf que, selon nos informations, à ce moment-là, les enquêteurs ne lui ont toujours pas dit qu'ils avaient des vidéos de toutes ces scènes. Alors, l'homme de 57 ans poursuit sur la même ligne. Les policiers passent alors à la vitesse supérieure. Ils lui montrent les images où l'on distingue sans le moindre doute un coup de pied, une claque, où l'on entend des insultes. L'aide-soignant reste sans voix. Désormais, difficile de nier et de convaincre les enquêteurs.
Voilà une information de Pierre Herbulot qui laisse sans voix, justement. L'ambassadeur de France repart aujourd'hui à Rome et c'est ce qu'annonce ce matin Nathalie Loiseau, ministre des Affaires européennes. Il avait été rappelé en signe de protestation après les propos très critiques de dirigeants italiens. Et justement, le gilet jaune Christophe Chalençon, qui a récemment rencontré Luigi Di Maio, vice-premier ministre italien, refait parler de lui ce matin dans une vidéo enregistrée en caméra cachée par la télé italienne. Il affirme que des paramilitaires sont prêts à faire tomber le gouvernement français. Éric Drouet, quant à lui, se retrouve face à la justice, figure des gilets jaunes. Il comparaît pour avoir organisé
deux manifestations sans déclaration préalable. Le climat, ça les concerne. Étudiants et lycéens manifestent devant le ministère de la Transition écologique cet après-midi. Félix Rag, l'un des coordinateurs du mouvement La Jeunesse pour le Climat.
L'État français, il permet aux émissions de gaz à effet de serre de la France d'augmenter, alors que l'objectif depuis la COP21, c'était de les faire diminuer chaque année. Il faut prendre des engagements clairs et dès maintenant.
Voilà des propos recueillis par l'Or d'Autriche. Et puis aux États-Unis, Donald Trump va déclarer l'urgence nationale, et ce pour pouvoir construire son mur à la frontière avec le Mexique. Une procédure exceptionnelle qui l'autorise à contourner le Congrès.
Europe 1. Nico Saliagas, tout de suite on retrouve David Abicard pour sa revue de presse.
Et à la une ce matin, cher David, le ras-le-bol des Français.
Bah oui, manifestation, le ras-le-bol grandit à la veille de l'acte 14 du mouvement des Gilets jaunes. Le Parisien aujourd'hui en France dit le ras-le-bol de nos concitoyens face à un mouvement qu'ils soutiennent moins, encore à 58% de sympathisants, mais dont la mobilisation doit cesser pour 56% d'entre eux. Alors d'où vient ce désamour, s'interroge le Parisien aujourd'hui en France? Eh bien, de la distance prise par les manifestations du samedi avec les revendications initiales. Ras-le-bol des Gilets jaunes donc, et pourtant, à la une des dernières nouvelles d'Alsace, ils ne lâchent rien. Le système D pour durer, titre le quotidien alsacien, qui fait la tournée des tentes, des mobile homes, des cabanes et de ces drôles de constructions où s'abritent les gilets jaunes pour tenir. Et puis dans le Figaro, Yvan Rioufol, lui non plus, ne lâche rien. Il soutient depuis le début les gilets jaunes, ces nouveaux boucs émissaires, dit-il. Il les soutient contre l'establishment, contre le showbiz et François Berléand, l'acteur qui a dit « ils me font chier les gilets jaunes », contre les vrais casseurs de l'ultra-gauche et ceux de l'ultra-droite, et même contre les lecteurs du Figaro qui ne sont pas d'accord avec lui souvent. Il soutient les gilets jaunes, Yvan Rioufol, contre ceux qui ont confisqué leur révolution, à commencer par ce président qui s'est approprié prier la révolte. Il y a de la tristesse dans les mots d'Yvan Rioufol qui ferait dire au poète « Les chants désespérés sont parfois les plus beaux et j'en sais d'immortels qui sonnent comme un édito. »
Vous en parlez bien, il ne doit pas désespérer Yvan Rioufol, parce que le message des Gilets jaunes commence à parvenir aux décideurs aussi.
Après avoir inspiré la méfiance, le message des Gilets jaunes, à condition d'être compris peu à peu, parvient jusqu'aux patrons, aux entrepreneurs, aux cadres, aux publicitaires. Ces gilets jaunes font la une de Stratégie, magazine des médias, qui parle d'un séisme dans la pub, la com, les marques. On ne pourra plus parler aux gens de la même façon, nous explique-t-on en substance. Ça me rappelle, moi, la chanson d'Alain Souchon, faut voir comment on nous parle, on a soif d'idéal, mais surtout dans la nouvelle formule du magazine Management. Il y a 7 leçons à tirer du mouvement des gilets jaunes quand on exerce une responsabilité dans l'entreprise ou le secteur public. Cette leçon sous la plume de Philippe Schletter, spécialiste des entreprises en crise. Écoutez bien, vous qui avez des responsabilités. Première leçon de la crise des gilets jaunes, écrit-il, l'explosion du besoin de reconnaissance. Les gilets jaunes nous ont dit on existe, on n'est pas rien. Deuxième leçon, on veut participer, s'impliquer. Troisième leçon, on veut reprendre en main notre destin. Ça s'appelle tout simplement la liberté. Quatrième leçon, on aime être ensemble, on veut faire groupe. Cinquième leçon, on veut des perspectives, donnez-nous un horizon. Sixième leçon, on aime travailler, on veut pas être assisté. Septième et dernière leçon, l'ancrage territorial. On a un pays, on a un territoire, on veut pas être hors sol, on a un chez-nous. Si ça, c'est le vrai message des Gilets jaunes, tel qu'il est décrypté dans Management, alors je signe tout de suite.
En tout cas, des Gilets jaunes qui auront, cher David Abicard, obligé les ministres à aller plus souvent sur le terrain.
Exemple avec Nicole Belloubet, garde des Sceaux, qui a porté hier en Indre-et-Loire le grand débat, là où on ne l'attendait pas, en prison. 10 ans qu'une ministre n'avait pas poussé la porte de la maison d'arrêt de Tours, explique ce matin la Nouvelle République. Un déplacement en toute discrétion dont les détenus n'ont été avertis qu'au dernier moment. 23 d'entre eux ont rencontré la ministre pendant 1h30 pour un grand débat. Curieusement, pas de questions sur les conditions de vie dans cet établissement surpeuplé, mais des questions sur l'impôt sur la fortune ou la taxation des GAFA. Des citoyens comme les autres, a souligné la ministre de la Justice, qui renouvelle aujourd'hui l'exercice à Avignon. Et puisqu'on parle de territoire, on finira avec une machine à pain, un distributeur de pain.
Elle a fait la une de Libération Champagne. Ça ressemble à rien, mais ça rend service.
Libération Champagne met à la une un gros distributeur de pain qui va intéresser Jacqueline Gourault, la ministre des Territoires, que vous receviez tout à l'heure. Vous mettez vos pièces et vous récupérez une baguette, un pain complet ou des viennoiseries ou des chouquettes pour Laurent Cabrol, sans oublier la monnaie. Ce distributeur de pain alimenté par un vrai boulanger est expérimenté dans 8 communes de la région de Bar-sur-Aube qui ont perdu leur dépôt de pain ou leur boulangerie. Alors effectivement, c'est moche, mais ça rend service. Et Christian Dubuff, le maire de Colombey-la-Fosse, explique à Libération Champagne qu'au début, les habitants venaient regarder, ils étaient juste curieux. Maintenant, ils ne peuvent plus s'en passer. Et c'est même devenu un point de rencontre. Vous vous rendez compte, une machine qui remplace le boulanger dans les zones rurales.
Le lien social.
Alors fini l'alignement des millefeuilles et des religieuses dans la vitrine. Fini le bruit du tiroir caisse. Mais surtout, surtout la boulangère. Elle vous dira plus. Et avec ceci, Nikos.
Ça ira pour moi, merci. Peut-être quelques chouquettes. David Abiker, qui chaque matin nous livre sa revue de presse à l'heure des croissants. Merci.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Dans quelques instants, ma chère Céline Dacosta.
Oui, mais que va-t-il se passer?
Eh bien, je crois qu'il arrive. Il y a du monde dans sa tête. Hein.
Ah oui, toujours.
Nicolas
beaucoup Canteloup de personnages.
Et la revue de presse, à tout de suite.
Une belle matinée sur Europe 1, il est 8h38.
Il est 8h40.
Attention, Julie est là. Ça veut dire que Canteloup n'est pas loin. C'est, ben, il est bien là, je le regarde là. Ouh là 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 là. Il va envoyer du lourd.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et on retrouve Nikos pour le titre principal de l'actualité de ce vendredi.
Et oui, ma chère Julie, l'actu surround. L'actu surround de ce morning, c'est le gilet jaune. Christophe Chalençon qui fait parler de lui ce matin pour avoir dit que des paramilitaires étaient prêts à intervenir pour renverser le pouvoir et qu'Emmanuel Macron pourrait finir, tenez-vous bien, guillotiné. Bon alors attention, c'est paradoxal, si vous guillotinez Macron... Il va enfin réaliser son rêve, devenir roi, Louis XVI. C'est son rêve, c'est ça. Bon, peut-être pas la fin, peut-être pas la fin.
Non, on
alors,
le souhaite.
Christophe Chalençon, ma chère Julie, qui a par ailleurs lancé son parti politique, le Mouvement Alternatif Citoyen, le MAC. Alors, bon, pour l'instant, c'est un petit parti.
Le MAC,
oui, c'est pas encore le Big Mac, mais ça peut venir. Et puis l'autre actu, c'est Jean-Philippe Ballas qui nous l'a révélé. Il nous en parlait, c'est ce Tinder pour les vaches, un site de rencontre pour bovins.
Eh ben.
Ah.
Oh.
Ah, bonjour.
Jean Lassalle.
Moi, ça emmène Lassalle, c'est
bien. Bonjour à tous. Ah oui, bonjour. Dites, bonjour. Votre Tinder pour rencontrer des vaches, où est-ce qu'on s'inscrit? Il faut le mettre sur son téléphone, je suppose, attendez. Ah, ça, je crois que j'ai trouvé l'application, oui. Alors, oh, comme elle est belle, celle-ci.
Ah, on se déchaîne en régie, hein, pour les meules.
Je lui plais. Ah oui. Je vais prolonger ma Saint-Valentin, je sens.
Oh, vous avez une touche.
Oui. J'arrive, Marguerite du 44. Je mets mon plus beau béret, j'arrive. Je veux parfumer. Oh là, avec mon nouveau parfum, Eau de Lisier de Paco Cabanne.
Eh. Eau de Lisier de Paco Cabanne.
Je vais en faire tourner des têtes de génisse.
Oh là là là, oui. Merci Jean Lassalle. À
essayez, essayez Brise de Chèvre, ça marche aussi.
Ah, vous êtes prolixe. Inventé.
Allez, autre chose. Airbus a annoncé l'arrêt de la production de l'A380 faute de commandes suffisantes.
Ouais, c'est pas étonnant. De toute façon, dans ce pays, on n'aime pas l'aviation.
Jean-Marc Ayrault, bonjour.
Ça fait longtemps.
Ben, on imagine pourquoi vous dites ça. Hein.
Oh, mais écoutez, ça me déprime. Ah.
Qu'est-ce qui se passe?
Ben, déjà qu'on supprime, monsieur Legas, les aéroports, comme à Nantes, maintenant on supprime les avions. Il y a une espèce de climat d'aérophobie dans ce pays. J'en ai assez de ce climat délétère. Il a raison, Juppé. Moi aussi, je vais me barrer au Conseil constitutionnel. Puis j'ai toutes les qualités, pourquoi vous souriez? Moi aussi, je suis un ancien Premier ministre, ringard dont personne ne veut, personne ne m'aime, sans ma vie. C'est la merde.
Allez, monsieur Ayrault, reprenez-vous. Allez, ça va aller. Bonne journée quand même. Hein.
Essayez Tinder pour vache.
Je n'ai pas le cœur à ça.
Malgré cette nouvelle, le chômage baisse à 8,8%. Il atteint son plus bas niveau depuis 2009. Hier, BFM TV posait même la question. Macron vaincra-t-il le chômage? On va se connecter avec la matinale de BFM TV. Christophe Delay, c'est à vous.
Oui, bonjour ma chère Julie, bienvenue sur BFM Télé, première chaîne d'info de France. Le chômage est en baisse. Tout de suite, un jingle impressionnant pour montrer à quel point nous sommes bluffés.
C'est bien.
bien
alors,
ça.
Alors donc, notre grand dossier, Emmanuel Macron vaincra-t-il le chômage? Emmanuel Le Chypre, vous êtes notre éditorialiste économique. Bonjour Emmanuel.
Oui, bonjour Christophe. Eh bien écoutez, depuis 40 ans, on le voit bien, le chômage empire, le chômage a l'air définitivement insoluble. Mais il y a un événement qui s'est produit il y a 40 ans. C'est la naissance d'Emmanuel Macron dans une étable à Nazareth. Aujourd'hui, force est de constater qu'on en récolte les fruits.
Tout à fait, Emmanuel. Rappelons qu'Emmanuel Macron, ce n'est pas qu'un physique, ce n'est pas qu'un score culté, ce n'est pas qu'une musculature, c'est aussi un cerveau. Gérard Collomb, vous êtes notre grand témoin, vous êtes notre invité, vous avez longtemps travaillé aux côtés d'Emmanuel Macron. Que pensez-vous de ces chiffres ?
Écoutez, bonjour. Écoutez, ces chiffres nous posent à tous, je dois le dire, la seule question qui vaille. Sommes-nous, chacun de nous, dignes d'Emmanuel Macron ? Moi-même, je me pose la question, ne l'ai-je pas trahi ? Oh mon Dieu, je crois que si. Je suis vous savez quoi, un misérable. Je mérite le fouet. Oh là
là. Alors écoutez, priorité au direct. Gérard Collomb se fouette donc en direct dans nos locaux.
Je t'ai trahi, pardon Emmanuel, mon doux seigneur.
Mon doux seigneur, oh là là, on vous laisse à BFM TV, c'est bon. Emmanuel Macron, justement, était hier dans l'Indre. Il débattait avec des maires du monde rural. Bonjour Monsieur le Président.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Oui, je suis parti chercher l'amour dans le pré. L'amour des maires de campagne, car je les aime, les maires. Vous savez, on a beaucoup à prendre d'eux. Ils n'ont rien, mais ils donnent tout. C'est ça qui est touchant.
Alors, vous avez parlé encore une fois à de nombreux maires, hein, hier.
Mais je n'ai pas fini. J'ai demandé à ceux qui n'avaient pas pu m'interroger hier de m'accompagner ce matin. Voilà, regardez cette mère-là. Regardez comme elle est belle. C'est quelle race? Je ne sais pas, c'est une limousine, une normande. Elle aussi, elle doit avoir le Tinder de tout à l'heure. Et puis, celui-ci est impayable. Impayable, avec sa grosse moustache qui est beau. Posez votre question, monsieur.
Oui, bonjour, monsieur le président. Bonjour, invitez, moi j'appelle José Beuvet. Nous avons toujours pas partenariat dans le comité territorial avec le comité le petit local. Je travaille en partenariat avec les maires ruraux. Je dois pouvoir les aider à développer, bon, je pas des aubergines, que de tomates, je prends de vegan, de quinoa, que des carottes, de matières, on peut pas se soigner des déserts médicaux.
Les déserts médicaux, quand même un truc.
On a compris un mot.
Il est touchant. Écoutez, monsieur, j'ai envie de vous proposer de vivre à l'Élysée. Écoutez, allez, je vous adopte. Est-ce qu'il y aurait une femelle ?
Non.
Oui, mais j'ai toujours rêvé d'en avoir en couple. Faites-moi confiance, vous pourrez jouer avec Nemo dans le jardin. On va juste vérifier votre carnet de vaccination, monsieur, ça va être très très bien.
Bon allez, on vous laisse. Merci monsieur le président, merci monsieur Macron. Selon un député En Marche, Jean-Baptiste Moreau, Brigitte Macron serait à fond pour le cannabis thérapeutique. Bonjour Benoît Hamon.
Excusez-moi, je suis tellement surpris. C'est là d'ailleurs que vient mon surnom, Benoît Hamon.
Monsieur Hamon, c'était une de vos propositions phares qu'on avance sur le cannabis et son usage.
Oui, comme quoi je me suis planté en me présentant à la primaire de gauche. J'étais fait plutôt pour être président, j'étais fait pour être première dame en fait, pas pour être président. Faudrait peut-être que je me marie à une femme de mon mouvement Génération.S et que ce soit elle qui se présente la prochaine fois. Voilà,
c'est bien comme idée, c'est progressiste. Hein
oui, bon après il y a quand même un problème, parce qu'il n'y a pas de femme à Génération.S. Ah. C'est pas de la misogynie, il n'y a pas d'homme non plus. Il n'y a personne. Je suis tout seul. Alors, je peux me marier avec moi-même, mais bon.
Non, bonne chance quand même. Hein. Merci Benoît Hamon. Alain Juppé a démissionné hier de la mairie de Bordeaux. Il va donc rejoindre le Conseil constitutionnel. On est en ligne avec un de ses membres, Valérie Giscard d'Estaing. Allô ?
Hey, allô ? Allô, oui, mademoiselle. Allô ? Oui. Je ne vous entends pas.
Allô ?
Je cherche à joindre Turbigo 2864, Europe numéro 1, s'il vous plaît.
Non, mais c'est bon, monsieur Giscard d'Estaing, c'est déjà Europe 1 là, qui vous appelle. Alors, dites-nous ce que vous pensez de l'arrivée d'Alain Juppé au Conseil.
Bonjour, écoutez, oui, nous aurons un petit nouveau, vous l'avez compris, un jeune kid dynamique, qui va donner une forme de coup de fouet
à notre institution. Et pour l'accueillir, nous avons prévu une fête, bien évidemment.
Ah,
une fête,
très
oui.
bien.
Oui, 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 on, tout est prêt. DJ, balance le son.
Prosper, yop, la boum, c'est le chéri de Céla.
Ah, on va s'éclater.
Ah, vous allez vous éclater manifestement, oui.
Oui, non, mais écoutez, on a prévu des petites choses. On a prévu des jeux à boire. Alors, oui, on va faire des quiz sur les articles du code de la consommation, différents alinéas. Puis celui qui perd doit boire une tasse de camomille. Il y aura aussi du tapioca. Laurent Fabius m'a dit qu'il avait prévu de faire un sketch. Un discours, enfin, exactement un discours sur l'histoire de la Constitution 58. Mm-hmm, non, on va se fonceler. Hein.
Oh là là, dis donc.
Bonjour, la compagnie, il y a quelqu'un?
Ah, monsieur Juppé est arrivé.
Bonjour Alain. Écoutez, cher Alain, entrez, je vais vous faire visiter. Entrez, voilà. Alors, là vous êtes, voyez-vous, ici, nous avons, vous voyez, la salle de travail, nous avons nos pupitres individuels, voyez, individualisés, les, à droite. Alors, je précise que les verres à dentier sont nettoyés tous les jours. Là, c'est le vestiaire où on peut ranger tous nos déambulateurs. Je ne sais pas si vous êtes équipé.
Non, je peux venir jouer avec vous. Moi aussi, je suis un ancien Premier ministre. Je peux rentrer?
Alors, désolé, c'est sur invitation. Non, excusez-le. Venez, Alain, continuons. Alors là, ça, c'est la réserve, voyez-vous, de naphtaline. Il faut toujours en avoir sur soi, parce qu'on bouge peu. Des fois, on a des mythes.
Mais dedans, écoutez, ça va être... Oui, je vois, cher président, ça va être la méga teuf. Je me demande si, en fait, je préférais pas les gilets jaunes.
Mais non, alors, venez, on va faire une petite fête. Allez, musique, allez.
Yop, la boum, c'est le chéri de Céla.
Il y a l'ambiance.
Oh là là, mais quelle ambiance, amusez-vous bien.
Bravo, on était vraiment dans un film, ah, oui. dans une carte postale d'un autre temps. Nicolas Canteloup et ses auteurs, Philippe Cavrivière, Laurent Vassier, Léon et Arnaud Demange sur Europe 1 quotidiennement. Le tour de la question à partir de 9h et jusqu'à 11h avec vous, Wendy Bouchard. Vous allez sur deux thèmes ce matin.
Absolument. Donner la parole aux auditeurs, à nos invités. Bonjour à tous. Bonjour. Nikos. Vous savez que le gouvernement veut mieux lutter contre le cyberharcèlement et veut engager dans cette responsabilité les géants du numérique. Et nous, on va s'interroger aussi, à côté de ce plan d'action, sur la surexposition des écrans, l'addiction. Il y a vraiment deux camps. Ceux qui considèrent que ça peut être dramatique et les études en troubles du comportement, troubles cognitifs dès les enfants de 2 ans le prouvent. Et puis d'autres qui tempèrent un petit peu. Donc nous aurons toutes les partie représentée. Et parents, chers parents, n'hésitez pas à réagir, vous, au 39-21. Et puis, à partir de 10h, avec des spécialistes, on va parler d'un triste record. Vous l'avez peut-être constaté comme promeneur, d'ailleurs, sur un certain nombre de plages françaises. Déjà 400 dauphins retrouvés échoués ces dernières semaines. C'est terrible. C'est lié en partie aux pêcheurs, mais ce ne sont pas les seuls à accabler. Que fait l'État? Que fait l'Europe dans cette histoire? Là aussi, on fait le tour de la question et vous réagissez.
Parce qu'on donne des leçons souvent aux Japonais qui mangent des dauphins, mais nous, on n'est pas capable de les garder vivants dans nos mers.
Absolument. Bon, l'Europe avance un petit peu sur le sujet.
Wendy Bouchard, passionnante toujours, de 9h à 11h sur Europe 1. Puis un autre rendez-vous ce soir, 17h-20h, Mathieu Béliard vous attend en direct en public au studio Bellemare. Il recevra notamment le secrétaire d'État en charge du numérique, Mounir Majoubi. Venez participer à ce grand journal du soir en live. On échangera ensemble sur l'antenne d'Europe 1. Et n'hésitez pas à vous inscrire sur notre site europe1.fr, Club Europe 1. Il y a tout dedans.
Oui, à suivre la météo et puis l'essentiel de la matinale juste avant 9h avec vous, Nikos Aliagas sur Europe 1. Il est 8h54, à suivre l'essentiel de la matinale avec vous Nikos Aliagas, mais tout de suite, Rénoval vous présente la météo. Profitez d'un temps toujours clément avec Rénoval, véranda et abri de piscine. La météo, c'est avec Laurent Cabrol, évidemment.
Et aujourd'hui, demain, très ensoleillé en fait.
Très ensoleillé, avec des températures qui seront très agréables dans l'après-midi. Froides ce matin, déjà on le ressent, bien sûr, tout le monde l'a déjà ressenti. Elles sont encore un peu froides, entre moins 3 et plus 8 degrés. Dans la journée, 12 à Dijon, 13 à Lille, 14 à Paris, Cognac et Colmar, 15 degrés à Rennes et Nantes, 16 à Nice, à Toulouse et Lyon, 17 à Marseille, rendez-vous compte, 18 à Montluçon, 19 à Biarritz et 20 degrés à Clermont-Ferrand. C'est vraiment des températures printanières et demain, elles seront tout aussi douces et même un petit peu plus. Donc n'hésitez pas, profitez bien de ce congé de fin de semaine qui sera franchement printanier pour certains d'entre nous. Lundi, mardi, je le disais, ce sera une dégradation, j'en détaillerai les contours tout à l'heure à 10h. Et puis la semaine prochaine, dans le courant la semaine prochaine, le beau temps reviendra. En tout cas, ce sera un beau temps hivernal.
Merci pour ces bonnes nouvelles, cher Laurent Cabrol.
Nous sommes le vendredi 15 février, on revient sur les moments forts de cette matinale, Nico Saliagas.
L'essentiel de la matinale, ce qu'il ne fallait pas rater, il y aura-t-il une 14e journée de mobilisation des Gilets jaunes demain ? Ce matin, une majorité de Français souhaitent que ça s'arrête, mais les leaders du mouvement restent très déterminés, comme Christophe Chalençon, celui qui voulait un militaire à la tête du pays il y a quelques semaines, quelques mois ici, sur notre antenne, il nous l'avait dit, eh bien, il en a remis une couche, enregistrée à son insu par la télévision italienne. Écoutez, des propos hallucinants, c'était dans le journal de 8h.
J'irai au bout de mes convictions. Parce que s'ils me mettent une balle dans la tête, Macron, il est passé à la guillotine. Aujourd'hui, on est arrivé à un tel point de confrontation que s'ils m'abattent, il est mort aussi. Parce que le peuple, il rentre dans l'Élysée, il démonte tout. Lui, sa femme et toute la clique. On a des paramilitaires qui sont prêts à intervenir parce qu'ils veulent aussi tomber le pouvoir. Donc aujourd'hui, tout le monde est calme, mais on est à la limite de la guerre civile, je te l'ai dit.
On est à la limite de la guerre civile, dixit Christophe Chalençon. Et à noter qu'un autre leader gilet jaune, Éric Drouet, comparaîtra aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris pour organisation de manifestations sans déclaration préalable. À 7h45, je recevais un samouraï des temps modernes, Patrice Franceschi. Il est écrivain, aventurier, cinéaste, marin, pilote, il est beaucoup de choses. Il passe sa vie à arpenter le monde pour s'engager aux côtés des populations menacées. On a évoqué évidemment avec lui l'avenir incertain de la Syrie, l'actualité. C'est vrai qu'il a passé 6 ans aux côtés des Kurdes, en pleine guerre contre Daesh. Il connaît le dossier, on l'écoute.
Idéologiquement parlant, le combat n'est absolument pas achevé. L'idéologie islamiste, la haine de tout ce qui n'est pas soi, est encore dans les esprits dans ces régions-là. On n'a pas tellement le choix, on ne peut pas ne pas s'occuper de nos ressortissants, aussi criminels soient-ils. Simplement, les derniers entretiens que j'ai pu avoir là-bas, notamment avec les femmes djihadistes françaises, me laissent penser que de toute façon, ce sont des bombes à retardement qu'il faudra gérer. On ne déradicalise pas des idéologues.
Et puis ce matin, sur Europe 1, on a tranché cette question. Les bonnes cantines scolaires, ça existe ou pas? Eh bien, Virginie Salmen, notre spécialiste éducation, en a trouvé une à Bègles, près de Bordeaux. Écoutez, ce n'est pas elle qui le dit, ce sont les enfants eux-mêmes qui le confirment. C'est bon, c'était à 7h20 dans Europe 1 va plus loin.
Le brocoli, c'est mon plat préféré.
Ah bon?
Parce que j'aime bien le goût. Ce qui est le plus bon dans ce plat, c'est le poisson, les brocolis et le chocolat.
En général, les enfants, ils aiment pas trop le poisson.
Ben moi, j'aime bien le poisson. Le goût, il est naturel et je veux dire, il est trop bon.
La sauce, elle est très belle et aussi, c'est du beau filet de poisson.
Comment tu vois que c'est du beau filet de poisson?
Ça se voit à l'œil. Moi, je préfère la cuisine de la cantine que la cuisine de chez moi, à part les gâteaux de mon papa.
Ça se voit à l'œil, c'est joli. Non, parce que souvent, ils pensent que les poissons sont carrés parfois dans les cantines. Là, en l'occurrence, c'était un vrai filet de poisson. Voilà, notre enquête sur les cantines scolaires à retrouver en podcast sur europe1.fr. Merci de votre fidélité. Merci de nous avoir suivis ce matin sur Europe 1. C'était ce qu'il ne fallait pas rater, ce qu'on a partagé avec vous dans la matinale. C'est vendredi, on se retrouve lundi. Ce week-end, c'est Bernard Poirette qui prend le relais dès 6h. Quant à moi, j'aurai le plaisir effectivement de vous retrouver dès lundi 6h55. Je voudrais remercier toutes les équipes de la rédaction technique et éditoriale. Bonne journée à l'écoute d'Europe 1. Prenez soin de vous et profitez du soleil. Et profitez de Wendy Bouchard. Elle est là, elle arrive juste après ça. Merci Céline Dacosta.